récupérer avant l'heure fatale de 17h. Voilà, c'est pas l'heure de minuit de Cendrillon, c'est 17h des Archives nationales. Mario, c'est à toi.
Bonjour à... On m'entend bien, malgré mon accent. Bon, bonjour à tout le monde. Donc, c'est d'abord, au nom de la présidente de l'université, vous dire que c'est un honneur d'accueillir ce quatrième colloque, ce qui me semble un peu modeste vu l'allure de la chose. Ça a plutôt l'air d'un congrès. Et des cryopsies. Et remercier non seulement nos partenaires, je m'obstine encore à dire Paris 10, et Descartes, Rouen et Caen. Et aussi à souhaiter la bienvenue et remercier d'être venus les intervenants des autres universités, Rennes-Lyon et Canterbury, Oviedo, Brasilia et Buenos Aires, Veracruz, Montevideo, Québec. J'espère que j'ai oublié personne.
Buenos Aires,
j'ai dit Buenos Aires, oui. Vous avez pas compris, eux, ils ont compris.
Voilà. Devant.
Et donc, mon partenaire, outre l'Université Paris-10, Rouen et Caen, aussi, transfert et bien entendu les Archives nationales pour nous accueillir. Et d'autres institutions, notamment les conseils régionales ou la région, comme on dit, l'Île-de-France et l'Ingen. Voilà, je pense que la seule entité que j'ai oubliée, c'est pas I8, mais c'est moi-même. Donc, comme disait l'autre, je serai bref, et cela pour 8 raisons. Hein. Donc, en réalité, je dirais 3 choses, c'est que 2 choses. J'ai déjà parlé du fait que c'est vraiment avec plaisir qu'on accueille cette manifestation. Et je m'abstiendrai de tout commentaire sur le contenu scientifique, puisque c'est à vous d'en discuter. Tout simplement, une fois que je suis arrivé à lire, comprendre et m'imprégner des 3 pages d'après la communication, que je crois avoir bien comprise, finalement, au point de pouvoir en parler et d'extraire quelques citations, je voudrais dire qu'il y a, outre la discussion ponctuelle sur les sujets, qui vous revient, mais qui me semble très intéressant, et 2 points pour lesquels l'établissement, en tant qu'établissement, j'aimerais exprimer la reconnaissance et l'intérêt pour ce type d'événement. Le premier, c'est le fait qu'à Paris 8, dans notre établissement, notre positionnement scientifique, la politique scientifique par rapport au paysage trouble, apparemment trouble, mais avec des multiples forces, et notre position scientifique, stratégique, n'est pas fondée sur l'excellence ou le développement des thématiques X ou Z et l'abandon d'autres, mais sur la transdisciplinarité et les thématiques émergentes. Donc voici, nous avons la première preuve de ce qui peut être une manifestation transdisciplinaire ou la psychanalyse, ou en général la post-clinique, le sens de l'éducation, déjà en elle-même transdisciplinaire ou interdisciplinaire, et l'histoire peut se rencontrer pour produire des résultats, je présume, intéressants et qui évoluent et qui ont dû évoluer depuis votre première rencontre, j'imagine, puisque vous êtes à la 4e. Donc, pour dire juste que c'est l'esprit de ce colloque de faire d'établir vraiment pas une rencontre par cumulation, mais un dialogue productif entre plusieurs approches, me semble déjà être dans l'esprit de l'Université Paris 8 et sa politique scientifique. Et le deuxième point pour lequel je trouve qu'il y a une certaine pertinence à. C'est-à-dire pertinence qui ne découle pas de votre thématique, mais qui résonne, fait résonance à notre université, notre établissement, c'est le fait que Paris 8 est une université actuellement justement est une période de transmission transgénérationnelle, c'est-à-dire trois générations. Actuellement, on est presque à la troisième génération. Donc, on est transdisciplinaire, transversal, mais aussi transgénérationnel, malgré la courte existence de l'université par rapport à d'autres institutions moyenâgeuses, ou médiévales, pardon. Et ça lapsus, à vous de voir ce que j'ai bien voulu dire. Et donc, par rapport à d'autres institutions, les jeunes, mais quand même, on vit cette situation. Et d'une institution où il y a l'héritage, cet héritage doit être transmis, doit être préservé, mais en même temps on a affaire à une nouvelle situation, où une situation difficile, un univers, un environnement complètement différent, un territoire qui a beaucoup évolué, et sur lequel on essaie de trouver un ancrage pertinent. Et donc, c'était assez, pas choqué, mais frappé de façon positive lorsque dans le texte d'appel, je dis, ah mais c'est bien, il parle de Paris 8, parce que j'ai lu, comment les institutions, les collectifs et les sujets sont-ils aux prises avec l'impensé, avec les processus inconscients de déni et de reconstruction de la mémoire que la psychanalyse et directement l'histoire permettent d'éclairer. C'est un beau portrait de ce qui se passe actuellement dans l'université. Hein? Et peut-être dans d'autres, je ne sais pas. Précisément. Donc, nous, c'est, comme je vous dis, une résonance intéressante des thématiques. Et c'est toujours bien de voir que lorsqu'on fait une approche transdisciplinaire, ça devient, ou interdisciplinaire, ça foisonne toujours, ça déborde des objectifs initiaux. Et ça va toujours bien plus loin, ce qui est l'intérêt de la chose. Donc, sur ce, je vous souhaite. Un bon accueil, non, puisque c'était déjà pas mal l'accueil. Donc, je vous souhaite un bon déroulement et des journées de travail positifs et enrichissants.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Il me revient à moi aussi de sacrifier au rite de l'accueil. En général, comme congressiste, ça m'agace toujours un peu, ces paroles, avant de rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, c'est moi qui sacrifie la chose, donc ça fait tant pis pour vous. En même temps, je me dis que la thématique du colloque le justifie, parce que les rites, évidemment, ils s'inscrivent dans les modalités de la transmission. Et donc, je vais essayer de prendre ça au sérieux en vous apportant le salut de l'UFR. Je crois que la transmission ici, elle est illustrée de deux manières. D'une part, parce que vous travaillez en effet sur ce phénomène de la transmission en éducation qui est central, j'y reviens rapidement, mais aussi parce qu'il n'y a pas de science et de communauté scientifique au travail sans transmission. Les colloques sont ces lieux et ces moments, et je crois qu'il faut tout à fait les prendre au sérieux et y introduire de la manière qui convient. Je remercie mes collègues de l'UFR d'avoir contribué à cette organisation. Qui travaille pour votre communauté scientifique STEAM, mais qui travaille aussi pour nous, en particulier pour les départements de sciences de l'éducation. Le choix est particulièrement judicieux parce que les archives, dans des considérations autour de la mémoire et de la transmission, on peut difficilement faire mieux. Il s'agit des archives nationales. Donc, évidemment, c'est pas pour ça que la convention, que les archives ont été créées à Saint-Denis ou à Perfil, mais peut-être aussi. Néanmoins, je crois que l'opportunité est très belle. Et je crois que c'est la première manifestation qu'organise l'UFR qui se déroule ici. Mais il y a aussi un autre aspect important qui tient à la politique, je crois, du développement de la recherche dans le nord parisien et qui fait que ça participe de ce mouvement de transfert qui prouve à certains incrédules que la science peut voyager au-delà du périphérique parisien, ce qui est, je crois, une bonne nouvelle et que nous allons illustrer cette nouvelle par vos travaux. Un département de sciences de l'éducation est évidemment intéressé par ces questions de la transmission. Je renverrai évidemment au grand ancêtre Durkheim qui mettait l'accent sur ces aspects de la transmission. Et vous connaissez la formule suivante à laquelle il arrive dans un ouvrage qui a été appelé « Éducation et sociologie ». Il dit ceci, « L'éducation est exercée par les générations adultes, sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. » coupure de ma part. Il résulte de la définition qui précède que l'éducation consiste en une socialisation méthodique de la jeune génération. Alors, vous reprenez, je dirais un peu à nouveau près, sans doute, cette question-là. Il n'y a pas de transmission sans critique, évidemment, y compris celle de Durkheim. Étant moi-même un peu sociologue, je vois bien que le modèle un peu vertical qu'il a défendu et une forme de délégation de la sociabilité enfantine, etc., sont les marques de l'histoire sur les pensées, ce qui est tout à fait normal. Néanmoins, la transmission, c'est ça, c'est reprendre les résultats là où ils étaient et continuer de les travailler. De mon point de vue, je me réjouis que les travaux du département de sciences de l'éducation, je parle de Paris 8, des choses semblables qui se font ailleurs, je m'excuse de ne pas pouvoir en parler, mais je me réjouis que ces travaux nous aident à entrer dans la complexité de ces phénomènes de transmission, dans ces phénomènes d'éducation, et que notamment, et c'est une des thématiques de votre colloque, les rapports entre clinique et histoire soient travaillés. Donc ce colloque, de mon point de vue, il a sa justification lui-même, mais au-delà, il nous provoque, nous, ici, à poursuivre des collaborations qui s'amorcent et qui devraient se développer. Je voudrais conclure très rapidement en disant que je vois dans le programme que je fais une allocution d'ouverture. Je voudrais bien m'inscrire dans ce genre d'ouverture et rendre hommage ici au travail du dernier ouvrage de Claudine Blanchard-Laville, au risque d'enseigner, on va dans quelques bonnes librairies, lorsqu'elle définit les approches cliniques. Je me permets de la citer. Ma visée dans tous les dispositifs que je construis est avant tout de créer des espaces pour que les participants puissent penser sans être sidérés. Elle constate que dans plusieurs des situations cliniques qu'elle travaille, il est beaucoup question d'entrée de classe, de sortie de classe, et donc de portes. Les portes qu'on tente de fermer sur certains élèves récalcitrants, et parfois aussi sans doute sur ce qu'ils peuvent évoquer en nous, enseignants de difficilement supportables. Mais il y a aussi des portes qui s'ouvrent sur d'autres collègues, sur des possibles professionnels. J'espère ouvrir ce genre de porte et je suis heureux de le faire aujourd'hui. J'espère que ces mots trop nombreux déjà ne vous ont pas totalement sidérés. Je suis un peu inquiet à vous voir. Et je m'efface pour vous laisser rentrer pleinement dans le vif de vos travaux. Je vous souhaite la bienvenue à Paris 8 et de très très nombreux et fructueux échanges. Bons travaux.
Oui, donc je vais donner peut-être le ton, je ne sais pas si c'est le là, de ces deux journées. D'abord en vous disant que c'est un très grand plaisir pour moi, ainsi que pour tout notre comité d'organisation, de vous accueillir aujourd'hui pour ce quatrième colloque international d'actualité de la clinique d'orientation psychanalytique en sciences de l'éducation. Alors, je pense qu'il ne vous aura pas échappé, en lisant notamment le programme, que pour son intitulé d'aujourd'hui, de la psychanalyse en sciences de l'éducation, ruptures et continuités dans la transmission, nous avons en quelque sorte sauté le pas, en laissant, peut-être provisoirement, tomber le signifiant orientation psychanalytique pour nous confronter directement à la psychanalyse et à sa transmission en sciences de l'éducation. Alors, dans l'histoire de notre courant, parce que je crois qu'on sera beaucoup amené à parler de notre courant durant ces deux journées, la note de synthèse rédigée par Jean-Claude Filloux, ici présent, en 1987 pour la Revue française de pédagogie, attirait à l'époque notre attention sur quelques interrogations épistémologiques qui soulevait d'ailleurs un questionnement d'ordre sémantique à propos de la rencontre entre psychanalyse et pédagogie. Et Filloux d'interroger, s'agit-il d'une application de la psychanalyse à la pédagogie ou bien d'une prise en compte de l'inconscient dans le champ pédagogique? S'agit-il d'une transposition du modèle de la cure à la pratique pédagogique ou bien à la théorie de cette pratique? S'agit-il de s'y inspirer du savoir analytique et d'utiliser ce savoir pour une exploration nouvelle du champ pédagogique? Et last but not least, s'agit-il d'être analyste dans l'acte même de recherche et d'écoute de ce qui se passe dans le champ pédagogique? Alors, nous n'épuiserons sans doute pas en deux jours de colloque tous ces champs de possibles, auxquels d'ailleurs un certain nombre d'entre vous, d'entre nous, ont déjà aussi apporté leur contribution, notamment Nicole Mosconi, ici présente, et Claudine Blanchard-Laville, bien évidemment, déjà citée. Donc nous n'épuiserons sans doute pas en deux jours de colloque tous ces champs de possibles concernant la place et la fonction de la psychanalyse en sciences de l'éducation et concernant sa transmission. Et d'ailleurs, peut-être que nous ne nous posons plus strictement les questions en ces termes, tout en conservant leur dynamique dans les interrogations qui étaient portées en 1987. Je voudrais rappeler que nous ne sommes pas les premiers, Freud nous en avait déjà montré le chemin, à dire que la psychanalyse n'est pas un savoir susceptible de s'enseigner comme les autres à l'université, que l'enseigner risque l'aplatissement ou l'affadissement de ses dimensions les plus tranchantes que seule la clinique permet de saisir. Je vous rappelle ces propos saisissants de Freud dans « Introduction à la psychanalyse » où il parlait des difficultés inhérentes à la formation analytique. Voilà ce qu'il disait. « On apprend d'abord la psychanalyse sur son propre corps, par l'étude de sa propre personnalité. » En fait, la transmission de la psychanalyse dans un cadre universitaire nous incite à la prudence et à une certaine docte ignorance. Car l'enjeu ne relève pas tant du savoir lui-même ou d'une didactique bien rodée que d'une position par rapport au savoir. Cette position, nous pouvons l'appeler rapport au savoir, nous pouvons l'appeler la posture ou le geste. Elle relève en tout cas de l'éthique même de la psychanalyse. C'est sur ce point que je voulais attirer votre attention, sur le risque de toute vulgarisation de la psychanalyse qui irait dans le sens d'une psychologisation, dont la caricature serait un clinicien en herbe s'autorisant d'un savoir universitaire pour interpréter par exemple le comportement d'un enfant et le renvoyer à un Œdipe mal engagé. Propos que ma longue expérience d'enseignement m'a amené à rencontrer à plusieurs reprises chez quelques étudiants égarés entre de mauvaises mains. Toutefois, j'y insiste, le repérage théorique précis que nous pouvons amener à l'université, celui des concepts fondamentaux de la psychanalyse, permet de mieux penser la question de l'éducation contemporaine, de ses impasses. Il permet de mieux penser les problématiques subjectives dans une société qui ne pose plus guère d'interdits, tout en restreignant drastiquement le champ réel des possibles pour beaucoup de sujets. Il permet aussi de porter, ce repérage, un autre regard sur les difficultés de transmettre et d'apprendre, se heurtant à la jouissance et aux sans-limites que font miroiter la consommation et le marché. Pour en revenir au questionnement épistémologique tracé par Jean-Claude Filloux, considéré comme la référence incontestable et incontournable, il me semble que durant les quelques 26 années qui nous en séparent, un déplacement s'est opéré que l'on peut clairement repérer par les thématiques des précédents colloques Cliopsy et au fil des numéros de la revue. Je ne voudrais pas être trop schématique, mais je pourrais dire que nous avons collectivement mis au centre de nos interrogations et de nos pratiques les approches cliniques de l'éducation, de la formation, en constatant les effets remarquables dont elles sont porteuses pour la recherche et pour l'enseignement en sciences de l'éducation, mais aussi pour les praticiens, pour les acteurs de l'éducation eux-mêmes. Je dirais même que ces années ont été celles d'un recentrement sur cette approche clinique, tant au niveau de la recherche que de l'activité auprès d'équipes éducatives et pédagogiques ou encore auprès de sujets, élèves, enfants, adolescents, enseignants, éducateurs. Avons-nous pour autant délaissé les questions épistémologiques ouvertes par la note de synthèse de 1987 ? Bien entendu que non, mais il me semble qu'on les a fait découler de la clinique. Nous les avons fait procéder de la clinique, nous inscrivant ainsi dans la tradition du mouvement psychanalytique. Le présent colloque, par sa problématique singulière, vient signifier peut-être un nouveau temps, celui du mouvement, ou plutôt, je m'y risque, de la modification. Le réseau Cliopsy signifie aujourd'hui, par l'intitulé même de son quatrième colloque, qu'il éprouve la nécessité de penser, de se penser dans une histoire, dans ses filiations, et sans aucun doute de mesurer les effets propres à son institutionnalisation au moment où se produit en son sein une forte transition générationnelle. Il s'agit donc de penser avec ce colloque la transmission en lien non seulement avec ce que nous savions déjà du rapport au savoir, mais aussi avec la question du devenir collectif, avec la question d'une nouvelle génération de cliniciens, elle aussi porteuse d'un désir, ici fortement représenté, celui de soutenir la psychanalyse en sciences de l'éducation, de soutenir le trait subversif qu'apporte toujours la prise en considération de l'inconscient dans l'éducation et dans la formation. Aujourd'hui, dans ce lieu des archives nationales, nous voici donc face à une interrogation à propos de l'histoire courte et longue de notre courant. Elle fait défiler les figures nombreuses qui ont compté et comptent toujours pour la psychanalyse en sciences de l'éducation et pour la rencontre toujours complexe entre psychanalyse et éducation, alors que se joue simultanément une importante transition générationnelle. Récits de filiation et mémoire des témoins s'entrelacent et se construisent et reconstruisent. Nous souhaitons vivement que ces deux journées favorisent la discussion entre les plus anciens et les plus jeunes, ainsi qu'entre la clinique d'orientation psychanalytique et l'histoire, pour mieux comprendre les ruptures et les continuités, pour mieux saisir les liens transgénérationnels dans lesquels nous avons pris place et qui pourraient nous agir si nous les ignorions. La force symbolique du lieu où nous sommes nous amène en tout cas à beaucoup d'humilité par rapport au temps long. Nous sommes entourés d'archives, petits et grands papiers qui scandent l'histoire collective. Nous sommes dans ce lieu de conservation de traces aujourd'hui refroidies qui permettent le plein travail des historiens. Cela nous fait prendre toute la mesure de ce qui peut circuler en termes d'affect et d'investissement subjectif, en termes de récits authentiques et mythiques, nous permettant d'imaginer une généalogie possible, nous reliant aux fondateurs de la pensée psychanalytique dans le champ de l'éducation, nous reliant aussi aux figures universitaires qui ont permis de transmettre quelque chose de la psychanalyse en sciences de l'éducation au fil des générations. Préparer un tel colloque ne laisse pas indifférent et n'a pas manqué de rendre présente pour moi l'autre scène, celle de la transmission, celle du plus intime, où se bousculent des souvenirs d'enfance et des rêveries à propos des récits familiaux, celle des questions restées sans réponse sur l'origine, celle des silences qui contrastaient avec le brouhaha incessant du cercle familial, il était nombreux en ce qui me concerne, celle des moments de complicité avec frères et sœurs où s'échafaudaient seuls ou à plusieurs des théories et mythes magico-sexuels, comme l'écrit Sophie de Mijola-Meyer. Si j'amène cette évocation, c'est simplement pour rappeler ici ce que nous savons tous, c'est-à-dire le socle sexuel inconscient sur lequel s'édifie la subjectivité et sur lequel vient s'appuyer la transmission de la vie psychique entre les générations, comme le décrivent K.S. et d'autres. Pour conclure sur cette transmission-là, celle de la vie psychique entre générations, une auteure s'impose à moi, Pierra Aulagnier, dont je rappellerai seulement ici l'importance qu'elle accorde à l'histoire et au travail d'historisation, le travail d'auto-historisation par lequel le sujet, apprenti historien, effectue une construction, reconstruction de son passé qui donne sens à son présent et permet un projet identificatoire, rendant son futur pensable. Pour que cela advienne, il faut qu'il y ait eu pour le sujet une anticipation. Aulagnier propose la mère, qu'elle désigne comme le porte-parole. La mère énonce en lieu et place de l'infance un discours qui précède sa naissance. C'est l'ombre parlée de l'enfant, produite et toujours supposée par la mère parlante. Ce sont ces énoncés qui disent le souhait maternel concernant l'enfant, mais c'est avant du moment où le jeu est advenu sur la scène psychique, il ne pourra en prendre connaissance, l'enfant, qu'à travers la version que pourra lui proposer la mère. Il lui empruntera, en quelque sorte, les informations qui lui permettront d'écrire son premier chapitre. Alors, me direz-vous, nous sommes loin de la transmission de la psychanalyse en sciences de l'éducation, de ses ruptures et de ses continuités. Eh bien, je referai le lien avec Georges Gaillard, évoquant les phénomènes de déliaison qui affectent les institutions aujourd'hui dans le domaine du soin ou de l'éducation. Il écrit ceci. Nous allons considérer un aspect central de la déliaison qui affecte ces institutions, celui qui concerne le travail d'historisation, ses achoppements, ses impasses, les attaques dont il est la cible et la violence meurtrière dont il est le lieu. Nous entendons par travail d'historisation le travail psychique d'inscription dans la chaîne généalogique et temporelle. Soulignons que le processus d'historisation sous-tend la construction psychique de tout sujet et qu'il en est de même au niveau de la construction identitaire des institutions au travers des sujets et des groupes qui les composent, notamment pour ce qui est de la constitution des identifications professionnelles et de l'inscription des usagers comme membres du corps social. Et Gaillard rappelle que Pierre Aulagnier énonce l'indissociable entre processus d'identification et processus d'historisation en ces termes. Le processus identificatoire est la face cachée de ce travail d'historisation qui transforme l'insaisissable du temps physique en un temps humain, qui substitue à un temps définitivement perdu un discours qui le parle. Sur ces mots, je conclurai mon introduction à ces journées en suivant l'invitation qui nous est faite au travail d'historisation. Je voudrais à toutes et à tous, de la part du comité d'organisation, vous souhaiter un excellent colloque parmi nous, de riches rencontres inter-transgénérationnelles, de riches moments de pensée, et je céderai la parole à mon collègue et ami Philippe Chausse-Court. Non sans oublier de remercier les Archives nationales qui nous accueillent pour une partie du colloque, non sans remercier aussi, comme l'a déjà fait Mario Barrage-Auvert, tous nos partenaires sans qui ces journées n'auraient pu avoir lieu. Merci. J'ai oublié ma chute. Je voulais aussi remercier les étudiants de master en sciences de l'éducation de Paris 8, les post-doctorants et les doctorants de Paris Ouest, Paris Descartes, Paris 8, qui nous donnent aujourd'hui un sérieux coup de main. Je crois que je peux le dire, la relève est assurée.
Bon, c'est absolument formidable de prendre la parole après Laurence. D'abord parce qu'il n'y a pratiquement plus de temps et qu'elle a tout dit. Donc, je vais faire quand même retomber un peu le niveau après ces considérations intelligentes au sens étymologique, c'est-à-dire capable de faire du lien. Et je suis absolument ravi que dans un colloque de clinique, ce soit finalement dans une table ronde constituée de 4 personnes avec 3 hommes et une femme, ce soit la femme qui porte la chose intelligente et la chose de fond. Et je trouve ça formidable. Donc, je vais revenir à des choses plus humbles. Je me suis interrogé sur ma présence à cette table ronde d'accueil, puisque finalement, si on fait le lien, et je me suis dit que c'était peut-être une des raisons de cette présence avec le colloque précédent qui avait eu lieu à Paris-Ouest-Nanterre, il y avait le directeur de l'UFR, il y avait le vice-président du conseil scientifique, il y avait Claudine Blanchard-Laville qui accueillait au nom de cet endroit l'ensemble des participants à ce colloque. Et donc je me suis dit, quelle est ma place ici, puisqu'il y a le vice-président de la recherche, le directeur de l'UFR, Laurence Gavarini qui accueille au nom de ce colloque. Bref, et alors j'ai trouvé, à part cette justification du lien, une autre justification. Il me faut parler d'un lien privilégié entre Paris-Ouest, Nanterre et Paris 8, qui est le presse. Et donc, vous savez qu'il y a une collaboration déjà ancienne et durable sur un plan scientifique qui a été établi entre une équipe de Paris 8 qui est le CIRCEPT et une équipe de Paris Ouest Nanterre qui est le CREF, que dans le cadre du CIRCEPT de Paris 8, il y a une composante qui est approche clinique de l'éducation et de la formation, qui va devenir pour le prochain quinquennal clinique de l'éducation et de la formation, approche psychanalytique, socio-clinique et institutionnelle, qu'il y a d'autre part à Nanterre une composante créée par Claudine Blanchard-Laville qui s'appelle clinique du rapport au savoir. Cette composante clinique du rapport au savoir, avant tout de faire un peu de lien, elle s'inscrit dans toute une histoire de la clinique et de Nanterre, représentée évidemment ici par Jean-Claude Filloux, mais représentée ici aussi par Nicole Mosconi, représentée bien sûr par Claudine Blanchard-Laville, représentée aussi par Françoise Hatchwell, par Daniel Lens, c'est-à-dire qu'on a bien là toute une chaîne générationnelle hein, de transmission de quelque chose. Donc cette équipe clinique du rapport au savoir qui va devenir pour le prochain quinquennal à Nanterre savoir, rapport au savoir et processus de transmission avec un acronyme qui était SRSPT dont je vous laisserai les associations venir. Voilà. Donc je replace aussi ce colloque qui est le quatrième après le colloque de 2003 à Paris-Ouest, le colloque de 2006 à Paris Descartes, représenté ici par notre collègue et ami Bernard Pechberti, le colloque de 2009 à Paris-Ouest, et enfin ce dernier colloque qui a lieu aux archives. Eh bien, je laisse la parole à mon collègue et à Paris 8, aux archives et à Paris 8. D'ailleurs, on le voit bien sur les affiches qu'il a lieu à Paris 8. Et donc, je laisse la parole à mon collègue et ami Jean-Luc Rinaudot qui va vous en dire plus sur la forme de ce colloque et sa présentation.
C'est un côté plus pragmatique, une question de transmission mais plus pragmatique. Deux choses, la première chose concerne pas tout à fait le colloque, mais est en lien, c'est notre revue, la revue Clioxy, www.clioxy.fr.
Est-ce que c'est mieux comme ça?
Cette revue a vu le jour en 2009. En fait, un certain nombre d'entre nous avons décidé de partager notre part de folie créatrice pour mettre en œuvre une revue électronique de diffusion des travaux de recherche de la clinique d'orientation psychanalytique en éducation et en formation. C'était un pari. Sortait le premier numéro que nous avions distribué lors du précédent colloque à Nanterre. Nous en sommes au rythme de 2 numéros par an, à 8 numéros parus. Le 9e devrait sortir prochainement, en principe en avril 2013, donc dans le mois qui vient, peut-être tout début mai. Le numéro 10 sur les questions d'écriture est en cours de préparation. Il y aura sans doute un numéro autour des questions de transmission et j'invite déjà les participants. En même temps, je dis cela, je m'inquiète un peu parce que je dois être à peu près 150 à 200 personnes dans cette salle. Donc, si tous les participants décident de transformer leur communication ou leurs interventions à la table ronde en article pour la revue Cliopsy. D'un côté, ça nous permettra d'avoir une dizaine de numéros d'avance. Et en même temps, j'imagine la charge du comité de rédaction et des membres du comité de lecture. Et enfin, j'invite déjà les participants à transformer leur communication, leur présentation en article pour la revue. Et puis, un mot d'excuse, puisque les aléas de la technique, c'est une revue électronique, les aléas de la technique ont fait que depuis début mars, ça tombe vraiment mal juste avant le colloque, le site de la revue a a fait défaut. Pendant plusieurs jours, on a eu une page blanche, puis une page un peu qui permettait de télécharger les 8 numéros en cours. On a essayé de réparer du mieux qu'on peut, mais de façon provisoire pour le moment, le site. Mais tous les articles et tous les numéros sont accessibles, c'est ce qui nous paraissait important. Une nouvelle interface sera mise en place prochainement. Voilà pour mon premier point, pour la revue. Deuxième point, une question de transmission, il s'agit des tables rondes. C'est ce qui est indiqué mon intervention de présentation et coordination des tables rondes. Alors, on a trois tables rondes qui toutes se déroulent dans cette salle autour des questions de transmission. Je laisserai à chaque fois le modérateur présenter plus précisément la table ronde. Dans chaque table ronde, vous avez remarqué que nous avons une dimension internationale, puisqu'à chaque fois, on a un intervenant qui vient d'un autre pays. Et encore une fois, on salue nos collègues qui font l'effort du déplacement pour venir presque à chaque fois. Nous avons des collègues de l'étranger. Question sur les échanges. Le modérateur animera les échanges, bien sûr, entre les participants de la table ronde. On aimerait aussi avoir des échanges avec la salle. Alors, on avait plusieurs solutions possibles. On a écarté l'idée d'avoir des boîtiers de vote électroniques pour poser des questions en direct. On a déjà eu des soucis avec le site internet de la revue. Et on a adopté un mode de transmission des messages beaucoup plus classique, puisqu'il s'agira de messages sous forme papier. Vous avez normalement dans votre mallette le programme et à l'intérieur de la mallette trois post-it, trois petits papiers bleus, un pour chaque table ronde. Bleu ou jaune, deux couleurs, peut-être bleu pour les garçons, pardon. Un pour chaque table ronde, ou tous pour la même, c'est vous qui voyez, qui seront ramassés par des messagers qui circuleront sur les marches et qui viendront rapporter au modérateur les questions, qui essaiera d'en faire une synthèse, de les proposer aux participants à la table ronde. Et peut-être que ces questions et celles qui n'auront pas été traitées pourront faire l'objet d'une reprise, c'est l'invitation que je vous fais, par nos deux grands témoins qui témoigneront, c'est leur fonction, à la fin du colloque, demain soir. Voilà, alors, on devait terminer à 10h15, 10h25, on a peu de retard normalement. Voilà. Je ne vais pas plus avant et je laisse la place à la première table ronde.
Donc on va avoir un changement de place, on va installer la première table ronde. Je vous laisse dans le cadre de ce changement de place associé sur cette image de Freud avec cette transmission, cette façon de le dire avec des fleurs. Hein, et puis voilà, Freud, une petite fille, je vous laisse associer pendant qu'on termine l'installation.
Le technicien nous signale qu'il y a des interférences de son avec vos téléphones. Donc, ce serait bien que vous puissiez couper vos téléphones parce que sinon, il a un très gros problème de prise de son. Or, le colloque sera intégralement enregistré, d'une part, et d'autre part, c'est aussi la qualité du son que vous entendez qui dépend de ces interférences. Donc, si vous voulez bien couper vos téléphones, ce serait fort agréable. Merci. Bien, nous allons donc commencer cette première table ronde qui durera jusqu'à 12h30. Nous essaierons, dans la mesure du possible, parce que nous avons déjà un petit quart d'heure de retard, de bien tenir ces délais, parce que nous serons ensuite conviés au repas qui a lieu sur le campus de Paris 8, donc c'est un petit trajet de 10 minutes. Voilà. Cette première table ronde s'intitule « Mémoire, transmission et filiation ». Et elle accueille 4 intervenants. Tout d'abord, Isabelle Lasvernias, qui est à ma gauche. Je les cite dans l'ordre qui m'a paru logique de leur intervention, à partir des petits résumés qu'ils m'avaient adressés. Donc Isabelle Lasvernias est professeure titulaire au département de sociologie de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Elle est l'auteur de nombreux articles scientifiques, elle a dirigé plusieurs ouvrages collectifs. Mais j'ajouterais aussi que Isabelle est directrice de la clinique psychanalytique de Montréal depuis 2007. Fondée par la Société psychanalytique de Montréal, c'est un centre de consultation exclusivement destiné aux personnes à faible revenu. Plus des 2/3 des patients qui s'adressent à ces services ont entre 18 et 30 ans. J'appellerai Antoine Savoie, qui est professeur à Paris 8, qui est membre du même laboratoire que nous autres qui organisons ces journées pour Paris 8. Le laboratoire CIRCEFT, où il anime depuis de nombreuses années un axe qui correspond à une composante de recherche sur l'histoire et la socio-histoire de l'éducation. Puis Dominique Ottavie, qui est professeur à Paris-Ouest Nanterre La Défense et qui appartient au laboratoire CREF, que Philippe Chausse-Courte a nommé tout à l'heure. Dominique n'est pas inconnue de Paris 8 puisqu'elle y a été maître de conférence pendant de nombreuses années et elle travaillait aussi bien avec l'équipe des historiens qu'avec l'équipe des cliniciens. Et donc c'est avec plaisir que nous saluons son comeback parmi nous. Et puis Caroline Leroy qui est maître de conférence en sciences de l'éducation à Paris 8 qui a été un pilier, je dois le dire, et l'en remercier pour l'organisation de ce colloque. Quand je dis pilier, ça montre la solidité de la position qu'elle a occupée et nous a permis donc, avec cette solidité, d'être aussi aujourd'hui à ce colloque, dont j'espère qu'il sera réussi. Alors, je voulais juste dire quelques petits mots, et je ne vais pas abuser, mais qui me semblaient peut-être intéressant pour lancer notre réflexion, reprendre ce que je disais tout à l'heure, ce propos de Freud. On apprend d'abord la psychanalyse sur son propre corps par l'étude de sa propre personnalité. Et puis dire que pour préparer cette table ronde, je me suis tournée vers un événement qui date aujourd'hui de 30 ans, en mai 83. La Société psychanalytique de Paris et l'Association psychanalytique de France mettaient au programme de leur 43e congrès, vous voyez 43, nous on en est au 4e, nous avons beaucoup encore à faire, donc mettaient au programme du 43e congrès de psychanalyse de langue française la question de la transmission de la psychanalyse. Donc ma curiosité ne pouvait qu'être attirée par son compte-rendu dans le numéro de la Revue française de pédagogie. Psychanalyse, j'ai fait un lapsus tout à fait intéressant, c'est la Revue française de psychanalyse. Vous voyez là, ça commence. bienvenue à l'inconscient. J'ai eu la curiosité de lire ce numéro de la Revue française de psychanalyse, le numéro 81 de 87, où j'ai trouvé un très fort écho aux questions que je me posais sur la transmission de la psychanalyse en sciences de l'éducation, sous la plume de Roger Doré, qui était alors président de l'APF. Et je voulais juste le citer. « L'expérience de l'analyse en tant que démarche personnelle est expérience vécue de nature transgressive, ce qui ne saurait évidemment s'enseigner, puisqu'il s'agit essentiellement d'une mise en question du sujet, en tant que cette transgression est transgression de ses propres limites de sujet. Expérience dans laquelle certains tendraient à repérer une dimension qui, à la limite, serait d'ordre initiatique, en tout état de cause, une expérience qui, fondamentalement, pose la question de la filiation, laquelle, à son tour, est indissociable de la transmission. Transmission qui doit être aussi repérée au niveau même de la théorie, en tant que toute théorisation et transgression des limites qui s'opposent au désir de savoir. Limites externes, mais surtout limites internes, à une curiosité qui ne saurait renier son origine sexuelle, laquelle détermine sa véritable nature. L'œuvre de Freud, à l'évidence, est essentiellement transgressive. C'est Doré qui le dit. Comme le travail de pensée lui-même. S'approprier cette œuvre, c'est d'une certaine manière répéter pour son propre compte ce mouvement de transgression. Celui étant absent, celui-ci, le mouvement de transgression, lorsqu'il est absent, il ne s'agit plus alors d'une appropriation analytique, mais seulement d'un abord intellectuel, avec tout ce que cela suppose de fermeture à la dimension propre de l'inconscient. Il me semblait que c'était pas mal de mettre ceci au départ de notre table ronde. J'avais aussi pensé à Pierre Legendre, qui nous emmenait sur une autre scène avec son inestimable objet de la transmission. Et puis, je pense qu'il vaut mieux vous céder la parole, quitte à revenir là-dessus, notamment sur cet objet insaisissable de la transmission. Pourquoi est-il insaisissable, cet objet, dirait Legendre? Eh bien, parce que, précisément, il s'incarne, il soutient la reproduction humaine d'une génération à l'autre. Alors, la scène de la transmission intellectuelle et celle de la généalogie d'un sujet n'ont évidemment rien à voir l'une avec l'autre, me direz-vous. Mais le déclarer comme ça, c'est ignorer ce que nous savons de la reproduction du schéma familial tel que l'avait mis en évidence Mendel, ou encore ce que nous savons de la répétition chez le sujet. Nous avons pensé utile pour cette table ronde de comprendre justement ce qui se déplace d'une scène à l'autre, ce qui se tisse entre la scène sociale et la scène subjective, ce qui se tisse entre la scène du savoir et des savoirs et la scène de l'inconscient, ce qui se file, mais aussi ce qui se défile, dans tous les sens du terme, d'une génération à l'autre. Isabelle Lasvernias traitera de l'apport de la psychanalyse à l'interrogation sociologique. Puis Antoine Savoie évoquera la transmission comme objet d'histoire des sciences de l'éducation. Caroline Leroy, non, après ça sera Dominique Ottavi, parlera de filiation symbolique à l'heure de la tentation du tout biologique. Caroline Leroy, j'avais écrit, évoquera les reliquats transférentiels qui ont pu circuler jusqu'à nous comme héritage. Et c'est exactement le titre de sa communication, sauf qu'elle a mis avant « Il était une fois », trois petits points, des reliquats transférentiels en héritage. Voilà, je vous cède la parole.
Merci, merci Laurence. Vous m'entendez? Merci beaucoup Laurence. Merci au comité scientifique organisateur de ce magnifique programme de colloque. Merci pour l'invitation qui m'a été faite de m'associer à la réflexion partagée. J'en suis à la fois très heureuse et très honorée. J'interviendrai ce matin au croisement de deux perspectives. La perspective de la clinique psychanalytique, est-ce qu'elle permet de mettre à jour et comprendre des processus de subjectivation? Et la perspective de l'interrogation sociologique sur la modernité contemporaine et les modifications que celle-ci semble induire chez le sujet. La clinique psychanalytique et l'observation sociologique sont à beaucoup d'égards l'auxiliaire l'une de l'autre pour penser ce que René Gaës nomme le mal-être, en un seul mot, du temps présent. Mal-être, révélateur de nouvelles expressions de la subjectivité, s'accorde à dire avec les psychanalystes de nombreux penseurs des sciences humaines. La conjugaison sensible de ce double regard, clinique et sociologique, porté sur une souffrance d'origine sociale, s'inscrit pleinement dans la logique de l'interrogation qui a très rapidement conduit Freud à élargir ses recherches sur les mécanismes inconscients à l'œuvre chez le sujet singulier. Nous étions alors au temps de l'interprétation des rêves, au terrain plus large de l'histoire culturelle, ce qu'il nommera deux décennies plus tard, dans un néologisme forgé par lui, le Kulturarbeit. En 1908, un premier texte, « La morale sexuelle civilisée et la maladie nerveuse des temps modernes », soulevait la question de la souffrance humaine dans les termes d'une souffrance du temps induite par des impératifs moraux et des contraintes de comportement dictées par un univers culturel puritain et intériorisées par le sujet. Hypothèse qui, on le sait, sera prise dans le sens d'une relation de cause à effet par un auteur comme Marcuse, pour qui il suffira de mettre à mal les instances morales répressives et d'abattre leurs représentants, à commencer par leur autorité parentale et paternelle dans la famille, et les autres porte-paroles, religieuses ou autres, de la répression des pratiques sexuelles, pour libérer les jeunes corps et les jeunes esprits des chaînes morales qui les faisaient sombrer dans des souffrances névrotiques. Un siècle plus tard, dans les sociétés occidentales, la libération surmoïque des entraves autoritaires a largement eu lieu. Mais si le dernier tiers du XXe siècle a ancré l'illusion d'un sujet libéré des entraves culturelles d'autrefois, conscience morale rigide, religion, famille, loi du père, interdit sexuel, etc., il n'a pas débouché pour autant sur un mode plus épanouissant de l'être. Second temps de l'élaboration freudienne sur les effets de l'environnement sur la psyché, les deux brefs écrits, Considération actuelle sur la guerre et la mort, 1915, et la psychanalyse des névroses de guerre, 1919. Dans ces deux textes, comme dans la correspondance avec Karl Abraham du même moment, où il sera question de la misère névrotique, ce sont les termes utilisés par Freud, que peut engendrer la pauvreté, Freud revient à sa première théorisation sur le traumatisme et à son origine dans une réalité vécue. Le moment d'écriture de ces textes, il est vrai, y compris la correspondance ici évoquée, n'est pas fortuit. Ces textes sont dictés par la conjoncture d'années marquées par la mort en masse, l'angoisse collective, et dans les années de l'immédiate après-guerre, la misère ouvrière et la multitude des chômeurs en Allemagne et en Autriche jetés sur le pavé. Masse et puissance, écrira plus tard Canetti, plaçant son œuvre maîtresse sous le signe du tragique de la force agissant la collectivité humaine. Les dix textes, en fait, vont très au-delà d'une simple reprise de la première thèse sur le traumatisme. Ils sont les textes germinatifs de deux autres textes clés, Psychologie des foules et Analyse du moi, et Malaise dans la culture, qui déboucheront sur l'affirmation d'une réalité psychique groupale, englobant les psychés singulières et liant entre eux les atomes du groupe dans un même mouvement pulsionnel et fantasmatiques, et qui déboucheront aussi sur l'hypothèse radicale que l'on sait de l'action de la pulsion de mort au cœur même du travail de la culture. Nous ne pouvons ni répéter Freud, ni oublier Freud, note René Carès. Pourtant, curieusement, dans les années qui ont fait suite à la mort de Freud, il y aura dans la pensée française et dans la transmission psychanalytique, je parle ici des instituts de psychanalyse, un long effacement du corpus des textes freudiens traitant du rapport intrinsèque psyché-culture. Il faudra plus de 30 ans de latence avant que leur importance ne soit redécouverte, et notamment par un auteur comme Pierre Aulagnier, qui a cité à très juste titre tout à l'heure Laurence. Ce fait français n'est toutefois pas un universel. La remise au travail de ce corpus théorique avait largement été amorcée avec les apports de l'école de Francfort, ceux de Bion, et en Argentine avec les travaux notamment de Pichon-Rivière et de Blegger. Aujourd'hui, la réflexion sur les enjeux psychiques inhérents au Kulturarbeit se retrouve à l'avant-scène de l'interrogation clinique en écho à l'expérience de la modernité contemporaine et à ses effets de perturbation sur la vie psychique. Il n'est sans doute pas inutile de s'attarder un instant sur la notion très complexe de Kulturarbeit, ce néologisme de la langue allemande pratiquement impossible de traduire dans une autre langue et la langue française. On sait que cette notion désigne l'inscription psychique d'un ensemble de noyaux fantasmatiques, d'un surmoi culturel, langagier et symbolique, relayés et transmis par les porte-paroles de la culture, que sont en premier lieu pour l'enfant, la mère, mais aussi le père, la famille et les autres institutions primaires de la socialisation, à tour de rôle, l'école, parfois encore aujourd'hui, la religion, etc., ainsi que, sans cette inscription psychique, les effets intriqués de liaison, autant que de déliaison, de ce bain environnemental multilangagier sur ce qu'il adviendra chez le sujet de sa capacité de la mise en pensée. Pour Freud, il est manifeste que le Kulturarbeit engendre le malaise psychique. Mais l'accent est mis dans sa théorisation sur la tension entre les exigences de satisfaction pulsionnelle de l'individu, les contraintes de la vie sociale et les exigences de la sublimation. En revanche, il est peu question des processus de socialisation de la psyché ou de la fabrication des représentations, des pensées, des émotions et des conduites par et dans le processus historique des civilisations. Approfondir ces autres composantes du travail de psychisation de la culture incombe à la pensée théorique actuelle. Notre monde présent serait-il marqué par une crise du processus de subjectivation ? C'est bien dans ces termes, en effet, que la question se formule pour le clinicien, autant que pour un ensemble de spécialistes du champ des sciences humaines, confrontés à une souffrance actuelle dont les manifestations les plus apparentes donnent à voir chez le sujet une modification du rapport au temps, et pour utiliser une nosographie descriptive simple, de très fortes instabilités émotionnelles, des problèmes de limite entre l'interne et l'externe, entre le soi et le monde extérieur, ainsi qu'un effondrement des liens entre la personne et ses groupes primaires d'appartenance. Décrochage social, désaffiliation, aurait dit Robert Castel, errances affectives, vie dans la rue ou squat chez des copains de rencontre jusqu'à ce qu'on se fasse jeter dehors, départ sur un coup de tête dans un pays étranger, dans l'illusion qu'on y trouvera un monde où l'on sera accueilli, reconnu, investi. Choix de formation sans signification subjective véritable, raccrochée de façon précaire à des mots fétiches comme marketing, communication, management, design, etc. Ou encore études du chinois, décision aléatoire pour cette jeune femme que rien dans la vie ne prédestinait à ce type d'intérêt, qu'elle délaissera tout aussi vite. Vie faite d'impulsions de l'instant, qui ne prennent pas sens dans une histoire, un projet de vie, un sentiment d'appartenance, autant de formes tâtonnantes d'être, autant de quêtes et d'alébis fragiles qui font écho à un sentiment de précarité globale et qui font écho également à la réalité d'un monde de plus en plus abstrait et inintelligible. Précarité du sentiment de continuité d'existence, sentiment d'impuissance, chaotisation de la pensée lorsque celle-ci n'est pas paralysée ou inhibée par l'angoisse et la dépression, telle pourrait être brièvement dépeinte le registre de détresse des jeunes rencontrés au quotidien d'une pratique clinique. D'un point de vue sociologique classique, leurs errements, leurs angoisses, leurs impasses sont le produit d'un monde devenu pour eux matériellement incertain et en trop rapide mutation. Une mutation dont on peut penser qu'elle est équivalente à une expérience traumatique massive. Mais cette description sociologique qui reconnaît dans ces jeunes les symptômes d'un univers référentiel qui, tous milieux sociaux d'origine confondue, c'est là une découverte sociologique troublante à laquelle la pratique clinique donne accès, ferait obstacle au travail de la mise en pensée et de la mise en sens de soi et de sa propre existence, eh bien, cette description ou ce constat relance l'interrogation théorique sur le malaise dans la culture et les impasses psychiques potentiellement induites par le temps présent. Il y a à peine un peu plus d'une génération. La plupart des patients qui consultaient dans des centres de traitement psychologique ou psychanalytique avaient encore assez largement accès à une intériorité dont le chemin introspectif avait été frayé en eux par le récit, l'ombre portée qu'évoquait tout à l'heure à partir de la nuit Laurence par le récit maternel ou le récit parental, mais qui avait été frayé en eux par l'enseignement de l'histoire, de la philosophie, la fréquentation de la littérature, voire la pratique des religions, la confession, sans oublier, c'est essentiel, la pratique de la lecture. Aujourd'hui, à de rares exceptions, les patients que nous rencontrons dans ces mêmes centres de consultation ont désinvesti leur monde intérieur. Ils ont désinvesti le temps long de la mémoire et de la capacité d'un récit de soi. Ces patients semblent structurés du dehors, imprégnés de manières de faire empruntées au monde des images, au site web, à Facebook et autres nouveaux automatiques, des nouveaux modes de l'échange communicationnel. Réfugiés dans des locutions du discours commun, otages de formules toutes faites, livrés à l'immédiateté de l'instant, comme à autant d'expériences fragmentées et désignifiées, ils oscillent entre deux pôles perceptifs qu'ils ne savent pas toujours distinguer l'un de l'autre, l'impact d'une réalité externe et celui d'une charge émotionnelle invasive. Soit l'effet en eux, hors liaison psychique, d'une charge pulsionnelle sous-jacente qu'ils confondent parfois avec un état corporel de nature organique. Problématique du vide intérieur, attrition des affects et de l'éprouver, ou au contraire, une flambée des affects et de l'éprouver, angoisse invasive et inendigable, ou encore rabattement sur des conduites compulsives et le surinvestissement des sensations corporelles, ivresse des conduites à risque, sexualité, alcool, drogue, comme si le corps était la seule ressource vitale pour le sujet, au sens où il serait la seule source d'excitation nécessaire pour se sentir exister et encore en vie. Ces diverses expressions du mal-être contemporain ont en commun plusieurs caractéristiques qui confinent à des comportements devenus en apparence normés, c'est-à-dire qu'ils sont statistiquement très fréquents. Chercher pour le sujet à ne plus rien ressentir, s'assommer par la consommation de drogue jusqu'à en être stone, c'est au moins l'expression consacrée au Québec, ne plus rien ressentir ou au contraire se perdre dans l'excitation de l'instant, c'est dans tous les cas de figure chercher à être sans mémoire, chercher à s'absenter de soi et d'une présence au monde. Une déroute subjective hors les mots, hors les souvenirs, au sens d'écriture psychique et de récits mémoriels, qui donne aux cliniciens l'impression d'être face à des sujets en quelque sorte tombés hors du monde, dirait Nathalie Zussman, en ce qu'ils sont la plupart du temps incapables de pouvoir se représenter à eux-mêmes la différence entre un éprouvé de vie et un éprouvé de mort. La différence entre une violence subie et une violence agie de leur part, et bien souvent contre eux-mêmes. Je pense par exemple à ces jeunes femmes qui évoqueront des expériences de prostitution à l'adolescence dans le dessein de se procurer de la drogue, et dont il ne leur restera quelques années plus tard que de bien fugitives images, accompagnées d'une néantisation du ressenti. Éventuellement, à titre de reste, une vague sensation. Mais une sensation, je dirais, un heimliche corporel. Lorsqu'il leur arrive de marcher dans les rues ou les quartiers qu'elles ont autrefois hantés, tout en ne pouvant pas véritablement faire le lien avec ces expériences traumatiques. Ces constats de type psychopathologique croise à certains égards l'hypothèse de nature anthropologico-philosophique qui postule l'existence d'une nouvelle individualité qualifiée, selon les cas, de postmoderne ou d'hypermoderne, caractérisée par des traits subjectifs et des formes de conflictualité psychique spécifiques qui distinguent le sujet psychologique nouveau de celui qui aurait été antérieurement produit par la modernité. L'hypothèse ainsi formulée est porteuse d'une nostalgie de périodes culturelles antérieures, dont on suppose qu'elles auraient été plus structurantes pour les individus, en ce qu'elles auraient produit des problématiques psychiques principalement construites autour de l'interdit et du sentiment de la culpabilité, soit le paradigme même de la structure névrotique dont Winnicott disait qu'elle est la structure d'une personne entière. La caractéristique de la modernité, et avant elle de plus de 20 siècles d'histoire de la pensée occidentale, si l'on remonte à la philosophie grecque, et si l'on passe par le relais par exemple du christianisme en arrivant à la pensée philosophique des Lumières, fut de fonder la subjectivité sur l'auto-réflexivité. Or, c'est cela qui serait en train de ne plus être transmis à l'enfant d'aujourd'hui, avec l'accès à la société de consommation de masse. Et avec l'émergence d'un surmoi moins rigide, s'est mis en place chez le sujet contemporain un nouveau rapport à la temporalité et un nouveau rapport au sens, centré dans les deux cas sur la recherche d'un plaisir immédiat sous toutes ses forces, sous toutes ses formes, comme s'il en était d'une finalité première de l'existence. Une rupture du sens subjectivé de l'action qui sera portée, aussi bien par le groupal que par l'individu noyé dans la masse. La réflexion philosophico-sociologique s'interroge sur ce qui semble être pour le sujet contemporain un nouveau mode d'être au monde, un nouveau naître dans le monde qui diffère profondément de l'époque antérieure. La valeur accordée à l'instant, au temps immédiat et à la matérialité des plaisirs donne prééminence au moi et à l'égotisme. Mais la survalorisation de la jouissance, sans pouvoir se représenter véritablement ce que ce pourrait être, et l'impératif de l'immédiateté obligée des résultats par rapport aux actions posées, se doublent d'un revers négatif. Si les injonctions de performance, de succès ou de bonheur ready-made sont devenues les nouveaux impératifs du temps actuel, elles sont autant de sources de déroutes subjectives. Les impératifs de liberté, de bonheur ou de réussite, comme nouvelle loi de la quête existentielle, ont pour envers des sentiments d'échec, de honte, des sensations de chute dans l'abîme, de défaillance du corps, d'impuissance et de perte des limites. J'ai pratiquement fini. Pour Gaucher, la dynamique individualiste qui s'est progressivement développée au cours du XXe siècle a été génératrice d'une nouveauté anthropologique absolue, avec des conséquences très profondes sur l'identité des êtres. Elle a donné naissance à un individu qui a en propre d'être le premier à vivre en ignorant qu'il vit en société. Tant il est vrai que l'individualisme dont nous disons qu'il est la marque des sociétés occidentales contemporaines se double d'une solitude existentielle inconnue en ce jour, à ce jour, une solitude qui va jusqu'à l'anonyme, jusqu'à la déshérence. À cet égard, on ne peut que constater la convergence entre les préoccupations cliniques actuelles et le retour en force des intuitions profondes d'une sociologie classique, on pense en particulier à Durkheim, que l'observation de la société contemporaine ravive. Continuité ou non des liens primaires parents-enfants, mère-enfant, père-enfant, instabilité aux fractures de ces liens et solidité aux atrophies du lien social vont de pair alors qu'aujourd'hui le social est largement devenu des vecteurs d'anomie. De même que pour le psychanalyste, l'observation d'une tendance à la désagrégation de la triade édipienne fait écho au profond remaniement de la famille contemporaine. Caïs, pour sa part, notera, bien qu'une part de la réalité psychique inconsciente échappe à toute détermination sociale ou intersubjective, la vie psychique ne peut se développer que sur la base de l'exigence du travail psychique qu'impose à la psyché son inscription dans les liens intersubjectifs primaires et dans les liens sociaux. On comprend donc l'insistance de Gaucher sur la modification profonde, faudrait-il parler de déstructuration, de l'institution de socialisation première qu'est la famille, et le fait qu'ils reconnaissent un événement historique majeur, aux conséquences à terme encore largement impensées. Dans le même ordre d'idées, en équivalence à la lente érosion de l'institution de la famille, on pourrait évoquer les fractures catastrophiques que sont les temps de guerre, de révolution, mais aussi certaines situations tragiques d'immigration, tous ces temps d'hybrise et de démesure pulsionnelle qui déstructurent le tissu et le lien social et dans lequel les figures d'autorité traditionnelles perdent elles-mêmes, en tout ou en partie, leurs repères moraux. Or, toute période de mutation culturelle aiguë, ce que connaissent les sociétés occidentales depuis 30 à 40 ans, sont caractérisées par une modification des liens identificatoires surnoïques à l'endroit des grands garants métasociaux, ça c'est l'expression, c'est le concept de KS, que sont en premier lieu les mythes, les idéologies et les croyances religieuses. Et dans leur suite, les structures d'encadrement, on l'a compris, et la famille, mais aussi les autres institutions juridiques et morales, ayant pour fonction de transmettre à l'enfant et au sujet les paramètres fondamentaux du contrat social, en tant que celui-ci est l'instaurateur des limites et des interdits, individuels et collectifs. Soit en d'autres termes, les diverses institutions et codes qui, dans l'ensemble des cultures, établissent les paramètres éthique de l'être ensemble et de la reconnaissance de l'autre dans son altérité et qui garantissent une stabilité suffisante des formations sociales. Quelques mots pour conclure. Les problématiques dites limites Descartes, en tant que nouveau paradigme de la subjectivité contemporaine, témoigne de l'instabilité des socles référentiels producteurs d'une mise en sens organisatrice de l'histoire et de la subjectivité. Ce qui est mis ici en difficulté, ce qui est mis aujourd'hui en difficulté, plus que toute autre difficulté psychique, est l'ensemble des composantes du lien de subjectivation. Le malaise est inhérent à la civilisation. Le principe de crise est au cœur du Kulturarbeit. De tout temps, le travail de culture est un travail psychique de lutte contre le mal et la barbarie. Mais le malaise actuel et les expressions de mal-être qu'il engendre sollicitent, plutôt que le refoulement et la conflictualité névrotique, comme cela semblait être par le passé, il sollicite davantage la partie psychotique de la personnalité et des mécanismes de défense comme les actings, les solutions addictives et toutes les formes d'attaque contre la pensée. Corollairement, il appelle, de notre part, d'autres efforts d'analyse et de théorisation que celles antérieurement proposées, notamment par Freud. Être moderne, c'est être contemporain de son époque et partager le sentiment qu'elle est porteuse d'une identité nouvelle. Mais peut-être manquons-nous encore d'hypothèses assez fortes pour concevoir avec suffisamment de paix et de quiétude des devenirs possibles. Je vous remercie de votre attention.
Merci Isabelle. Peut-être on va enchaîner avec une deuxième communication qui n'est pas en rapport direct et d'évidence, mais qui peut-être va résonner quand même avec ce que vient de dire Isabelle. Il nous faut enchaîner parce qu'on me fait signe que nous avons pris du retard.
Merci Laurence. Oui, c'est effectivement dans un autre registre que je vais parler de la transmission. Le registre que j'ai adopté, c'est celui de l'histoire des sciences humaines et sociales, et en l'occurrence, évidemment, des sciences de l'éducation, en me cantonnant au cas de la France. Par ailleurs, une transmission abordée sous l'angle historique, mais d'une histoire qui sera plutôt institutionnelle et sociale qu'une histoire des idées. En même temps, lorsque j'ai accepté d'intervenir aujourd'hui, j'ai été un peu imprudent parce que cette acceptation supposait qu'en matière de travaux historiques, elle puisse s'étayer sur des travaux relativement conséquents pour ce qui concerne l'histoire des sciences de l'éducation. Or, cette histoire des sciences de l'éducation n'existe pratiquement pas. Elle est à faire. Bon, je m'y emploie avec quelques autres, mais nous ne sommes pas vraiment très avancés. D'autre part, du côté, sur l'autre versant, si on peut dire, du côté de la psychanalyse, là, l'histoire est beaucoup plus amorcée, mais elle a souvent le caractère d'une histoire interne et moins d'une histoire qui met en relation la psychanalyse avec les autres sciences humaines et sociales, à l'exception évidemment, par exemple, du travail d'Annie Cohaillon concernant les rapports entre psychologie et psychanalyse. Si bien que, pour être le plus complet possible pour ce qui est de la une transmission, on va dire, alors historique de la psychanalyse aux sciences de l'éducation, il faudrait posséder une histoire qui pourrait ressembler à quoi ? Je vais en évoquer quelques caractéristiques rapidement. Cette histoire des sciences de l'éducation a en devenir, premièrement, donc, elle ne prendrait pas les sciences de l'éducation comme un bloc unitaire, mais distinguerait des périodes dans son histoire selon un processus marqué par des phases d'institutionnalisation et de désinstitutionnalisation, notamment pour ce qui concerne les sciences de l'éducation dans le champ universitaire, qui ne constitue pas ce champ le seul lieu de déploiement des sciences de l'éducation. Deuxièmement, cette histoire ne se cantonnerait pas, je viens de l'évoquer, à être une histoire des théories et des méthodes, mais elle serait à valeur égale une histoire institutionnelle, une histoire sociale, celle des acteurs et des dispositifs que ces acteurs ont créés ou su utiliser, et aussi des conditions de possibilité, plutôt externes, de leur action. Troisièmement, cette histoire distinguerait classiquement trois volets caractéristiques de toute praxis scientifique: la production de connaissances, la transmission, nous y sommes, de cette connaissance, soit par la formation, soit par la diffusion. Enfin, les réalisations pratiques, peut-être de l'ordre de l'application de la science à diverses réalités sociales. Et c'est au sein de ce vaste programme que pourrait prendre place l'étude de la transmission de la psychanalyse. Autant dire que aujourd'hui nous sommes encore loin de compte. Alors, certes, l'étude des rapports entre psychanalyse et éducation est déjà assez fournie, mais à mon sens, elle ne répond pas directement à la question spécifique des rapports entre psychanalyse et sciences de l'éducation, ce qui n'est pas la même chose. Alors, en conséquence, j'ai dû me résoudre face à ces lacunes, face à cet état lacunaire des recherches historiques concernant au moins les sciences de l'éducation, à esquisser quelques pistes de travail, et c'est ce que je vais vous proposer à présent. Ce travail d'études, de recherches historiques sur les rapports entre psychanalyse et sciences de l'éducation est d'autant plus compliqué que la transmission n'est pas un phénomène simple. Elle offre au moins deux types, à mon sens. D'une part, ce que j'appellerais la transmission primaire, et qui correspond à la réception de la psychanalyse en sciences de l'éducation, et que cette transmission primaire, évidemment, sur les périodes que l'on étudie, évolue en même temps que la psychanalyse ou les psychanalyses évoluent elles-mêmes. D'autre part, il y a ce qu'on pourrait appeler la transmission secondaire. C'est celle de ce que j'appelle des produits dérivés de la psychanalyse, des produits hybrides élaborés au sein des sciences de l'éducation, et qui connaissent, eux aussi, des phénomènes de transmission. C'est précisément pour illustrer ces deux niveaux que je vais vous proposer à présent donc deux pistes de recherche où repérer comment s'est déroulée la transmission de la psychanalyse à la science de l'éducation, aux sciences de l'éducation. Première piste, c'est celle qui prendrait pour objet la réflexion théorique et épistémologique par lesquelles des auteurs, relevant des sciences de l'éducation pour la plupart, ont évalué en quoi la psychanalyse pouvait être incorporée au paradigme des sciences de l'éducation. En évoquant ces auteurs, je pense évidemment à Jean-Claude et Jeannine Filloux, Claude Filloux ici présent, comme ça a été soulignée par Laurence Gavarini, mais aussi Jeanne Moll, Mireille Sifali, Nicole Mosconi, qui est parmi nous, Francis Imbert. Il y a là toute une équipe, si on peut dire, qui a travaillé à cette réflexion théorique et épistémologique d'incorporation de la psychanalyse au paradigme des sciences de l'éducation. L'autre piste que j'évoquerai, elle est historiquement ou chronologiquement plus ancienne, antérieure. Elle concerne une tentative d'intégrer la psychanalyse à un savoir pratique en matière de rééducation de jeunes élèves en échec scolaire. Elle a pris place au sein des sciences de l'éducation renaissante. Il s'agit de la pédagogie curative scolaire, spécialité que l'on peut aujourd'hui considérer comme défunte au sein des sciences de l'éducation et où la psychanalyse tenait une place remarquable. Ces deux exemples nous ramènent un demi-siècle en arrière à des périodes historiques contiguës qui sont situées respectivement en amont et en aval de la Renaissance au sein de l'université des sciences de l'éducation, avec la création en février 1977 d'un cursus diplômant conduisant, comme vous le savez, à une licence et à une maîtrise en sciences de l'éducation dont nous sommes en quelque sorte les héritiers aujourd'hui. En effet, la formalisation de la pédagogie curative scolaire débute avec les centres psychopédagogiques d'après la guerre, 1946, pour se poursuivre jusqu'au milieu des années 60 et même un peu au-delà. Donc on est dans ce que j'appelle l'amont de la renaissance universitaire des sciences de l'éducation. En ce qui concerne la réflexion théorique et épistémologique évoquée précédemment, elle prend son essor véritablement avec l'institutionnalisation universitaire des sciences de l'éducation, donc dans l'après 67, à l'après 68, nuance. Bon. Comment justifier le choix de ces deux exemples? Je n'ai guère de justification. Il est en partie arbitraire, car on aurait pu choisir d'autres exemples, tels que celui de la sociopsychanalyse de Gérard Mendel, qui a eu en sciences de l'éducation des artisans comme Jackie Beyrot ou Patrice Ranjard. Sociopsychanalyse, elle aussi bien oubliée aujourd'hui comme la pédagogie curative scolaire, à mon avis. Autre exemple que j'aurais pu retenir, celui de la pédagogie institutionnelle, qui a eu ses représentants en sciences de l'éducation hier, comme Jacquepin, Francis Imbert, déjà nommé, et qui a encore aujourd'hui des représentants parmi nous. C'est dire que les pistes de recherche pour évaluer la transmission de la psychanalyse en sciences de l'éducation ne manquent pas. Alors venons-en à mon premier exemple, c'est-à-dire celui de ce travail épistémologique et paradigmatique accompli au cours des années 70 et 80. Le texte de référence a été évoqué par Laurence dans son introduction, je crois qu'on en est tous d'accord, la note de synthèse de Jean-Claude Filliou de 1987. Cette note de synthèse, je le rappelle pour ceux qui l'auraient oublié, comporte deux volets. Jean-Claude Filliou passe dans une première partie, passe en revue les antécédents historiques du rapport entre éducation et psychanalyse, vu essentiellement du côté de Freud et de ses disciples, et pour partie du côté des pédagogues français d'après 1945. Le deuxième volet de sa note de recherche propose un état des lieux de travaux récents qui, en sciences de l'éducation, adoptent une approche psychanalytique. Deux caractéristiques à la lecture de cette note, lorsqu'on l'effectue avec les lunettes de la transmission, saute aux yeux. Première caractéristique, c'est que, en dépit de la largeur et de la profondeur de vue de la note, on serait tenté de dire, on pourrait être tenté de dire que le panorama historique proposé par Jean-Claude Filliou s'apparente à ce que Freud, en 1909, a nommé le roman familial des névrosés. Freud définit le roman familial des névrosés comme, je cite, « l'activité fantasmatique qui prend pour tâche de se débarrasser des parents, désormais dédaignés, et de leur en substituer d'autres, en général d'un rang social plus élevé ». En effet, Jean-Claude jette son dévolu, si on peut dire, outre évidemment le retour à Freud, sur la pédagogie psychanalytique de langue allemande, qui trouve consignée dans la revue, excusez ma prononciation, Zeitschrift für Psychanalytische Pédagogik, paru entre 1926 et 1937. Mais cette pédagogie psychanalytique est restée longtemps ignorée du public français. Qu'a-t-elle à voir avec la transmission réelle et effective de la psychanalyse dans le champ pédagogique hexagonal de son époque, c'est-à-dire l'entre-deux-guerres et l'après-seconde guerre mondiale? Cette découverte que Jean-Claude Filliou, à la suite de Jeanne Moll et Mireille Cifali, nous propose, ne fait-elle pas écran, empêchant l'analyse de comment le savoir psychanalytique s'est effectivement transmis en ce qui tient lieu de science de l'éducation à l'époque, par quels canaux, à travers quels auteurs, quelles institutions? Il me semble que, à travers l'entreprise de récapitulation théorique et caractéristique de ce travail épistémologique, au demeurant évidemment tout à fait légitime et utile, il y a une opération historique de qualification, disqualification du passé qui s'apparente précisément au roman familial des névrosés. Ainsi, les figures de Pfister, de Zuliger, de Eichhorn, qui sont mises en valeur dans la partie historique de la note, effacent des auteurs qui ont relayé, peut-être abusivement et fort mal, la psychanalyse dans le champ pédagogique, à la même époque. Citons, il en sera question dans un des ateliers, la figure d'Albert Millot, philosophe, spécialiste de pédagogie et enseignant à la Sorbonne, qui discute de l'intérêt d'introduire la psychanalyse à l'école en 1938. Autre absent notoire, Gilbert Robin, psychiatre, préféré lui aussi en psychanalyse et en pédagogie. De même, cette façon de réécrire l'histoire, si on peut dire, évacue les représentants de la psychanalyse jungienne ou adlérienne, qui ont été plus proches du mouvement d'éducation nouvelle, peut-être, que la psychanalyse freudienne, et dont l'influence a pu être plus marquante. Ainsi, on pourrait suggérer qu'au plan de la transmission de la psychanalyse aux sciences de l'éducation ou en sciences de l'éducation, le travail épistémologique réalisé dans la note de synthèse par Jean-Claude Filliou, mais aussi par les autres auteurs que j'ai nommés, installe une continuité en partie imaginaire avec des auteurs retenus comme référence. Mais l'envers de cette continuité est une rupture souvent implicite mais bien réelle avec d'autres auteurs passés sous silence. Dans le même esprit, lorsque Jean-Claude Filliou passe au bilan des applications réelles de la psychanalyse dans le champ pédagogique, le deuxième volet de sa note, qui va d'auteurs comme Hamelin à Claudine Blanchard-Laville, en passant par Caès, Raban, Baïto, etc., rien n'est dit des conditions dans lesquelles ces auteurs ont incorporé la psychanalyse aux sciences de l'éducation. Par exemple, de quel courant de la psychanalyse procède-t-il, à partir de quelle filiation et selon quelle médiation, une formation, une cure psychanalytique, produisent-ils cette hybridation psychanalyse-sciences de l'éducation? Le travail épistémologique, en bref, ne nous éclaire guère sur ce plan. On pourrait conclure donc de ce premier exemple, le travail épistémologique, qu'il installe une continuité, il fait bien de la transmission, mais une continuité toute idéale entre les sciences de l'éducation et certains pans de la psychanalyse, tandis que dans le même temps, il crée de la rupture avec la part de la psychanalyse dont il néglige l'influence effective chez les autres auteurs, acteurs du champ pédagogique. Il active une transmission, voire la construit, mais qui n'est pas celle que s'efforce d'objectiver l'histoire sociale. D'aucuns ne verront peut-être là que l'opposition entre deux traitements tout autant subjectifs du passé, l'un épistémologique, l'un historien, mais on peut en débattre. Le deuxième exemple qui peut nous servir à illustrer les aléas de la transmission de la psychanalyse aux sciences de l'éducation est celui de la pédagogie curative scolaire. Avec cette pédagogie, il ne s'agit plus d'une transmission biaisée comme celle évoquée précédemment, mais carrément d'une rupture de la transmission. La pédagogie curative scolaire, en effet, en tant que branche des sciences de l'éducation, alors en plein renouveau, et qui avait ménagé une place à la psychanalyse, étant tombée en déshérence après un quart de siècle d'existence. De quoi s'agit-il ? La définition que Maurice de Besse, fondateur des sciences de l'éducation, donne de la pédagogie curative, et que je tire du bulletin de psychologie, un numéro de 1961, est la suivante. La pédagogie curative scolaire est le traitement basé sur des exercices portant sur les matières d'enseignement d'enfants et d'adolescents intelligents, mais en situation d'échec scolaire, en vue de les aider à reprendre normalement leurs études. Cette pédagogie curative scolaire va s'alimenter, avoir recours à la psychanalyse. Je ne peux pas donner ici le détail de cette histoire, mais simplement évoquer quelques faits qui attestent de ce rapport fort entre cette branche des sciences de l'éducation qu'est la pédagogie curative scolaire et la psychanalyse. Ces faits sont les suivants. Bon, il y a déjà la personnalité de Besse lui-même qui, après une thèse marquante sur l'adolescence et sa crise d'originalité en 1937, devient au lendemain de la guerre professeur de psychologie de l'enfant et de pédagogie à Strasbourg, où il fonde, aux côtés de Juliette Boutonnier, future Juliette Boutonnier-Favez, ou Favez-Boutonnier si vous préférez, un centre psychopédagogique. Nommé à la chaire de pédagogie à la Sorbonne, De Besse crée un laboratoire du même nom et donc il sera à l'origine de la création d'un cursus de sciences de l'éducation dans les universités à partir de 1967. Cet actif théoricien de la pédagogie curative scolaire a des adeptes qui se révèlent eux-mêmes proche plus que le maître de Besse, en l'occurrence, de la psychanalyse. Je citerai quelques noms qui ne vous sont peut-être pas inconnus, celui de Roger Blais, auteur d'une thèse sur les classes de réadaptation dans les lycées en 1967, de Gilbert Terrier, de Janine Méry, elle-même auteur d'un mémoire sur la réadaptation scolaire et la pédagogie curative, puis d'un ouvrage en 1978 intitulé « Pédagogie curative et psychanalyse ». On pourrait ajouter à ce corpus de la pédagogie curative un numéro de la revue Sauvegarde de l'enfance qui comprend entièrement consacré donc à cette pédagogie curative scolaire qui comprend des contributions de Debesse, de Terrier, de Marie-Hélène Revaud-Dallone, de Moco, de Blais, de Berge, etc. Alors, maintenant, pourquoi ce courant qui occupait des positions relativement fortes dans le champ pédagogique, y compris le terrain universitaire, s'est-il éteint ? Et avec lui, s'est défait le lien avec des lieux d'exercice comme les CMPP ou les classes de réadaptation et leur suite. Voilà, à mon sens, une interrogation qui interroge la thématique de la rupture ou, si l'on préfère, de la solution de continuité dans la transmission de ce qui était psychanalyse au sein des sciences de l'éducation, intégrées aux sciences de l'éducation. Le temps avançant, je ne peux que évoquer quelques interrogations provoquées par cette extinction surprenante. Est-ce qu'elle est due, par exemple, à une fermeture des sciences de l'éducation à une psychanalyse éducative concrète au profit d'une appropriation plus théorique représentée par les auteurs mentionnés dans le premier exemple, ou bien est-ce dû à une évolution de la psychanalyse qui aurait décrédibilisé sa contribution à la pédagogie curative scolaire? C'est ce dont semblent témoigner des textes postérieurs, comme ceux de Bigeaud et Terrier dans l'illusion psychanalytique en éducation, ou avant eux ceux de Claude Raban, ou bien les diverses contributions à la commission psychanalyse et éducation du Congrès international des sciences de l'éducation de 1973. Voilà peut-être une hypothèse qu'il faudrait travailler pour comprendre cette espèce de désinvestissement de la psychanalyse, de cette pédagogie curative scolaire qui va bientôt s'éteindre. En conclusion, qu'est-ce que peuvent nous apprendre ces deux exemples? Le premier enseignement que je vous propose, c'est que, en regard du travail épistémologique qui consiste à essayer d'enrichir le paradigme des sciences de l'éducation de la psychanalyse, mais qui, du point de vue historique, a les défauts que j'ai évoqués précédemment, il me semble qu'il serait nécessaire d'entreprendre une analyse des conditions sociales de possibilité de la réception de la psychanalyse en sciences de l'éducation. De voir les choses dans leur ensemble pour reconstituer par une enquête socio-historique l'enchaînement des faits, des œuvres, des auteurs, des institutions, avec tous les maillons qui composent cet enchaînement. En somme, ça contribuerait notamment à mettre en lumière le rôle d'auteur resté jusqu'à présent caché, ces petites gens dont parle Freud à propos de l'enfant névrosé qui s'imagine avoir seulement des parents princiers. Le deuxième enseignement concerne l'incorporation de la psychanalyse en sciences de l'éducation à travers de ce que j'ai appelé des produits hybrides ou des produits dérivés comme la pédagogie curative scolaire. Là, l'exemple de cette pédagogie nous montre des possibilités de régression, voire de disparition. L'univers des sciences humaines et sociales est ainsi fait qu'une position acquise doit être sans cesse défendue et actualisée sous peine d'être perdue. Je crois que ce phénomène de régression devrait interroger un colloque qui rassemble les partisans d'une clinique d'orientation psychanalytique en sciences de l'éducation, soucieux de son avenir. Pour terminer, le travail qui pourrait accompagner le développement de la psychanalyse en sciences de l'éducation est celui que Pierre Bourdieu qualifiait de réflexivité. Dans son dernier cours au Collège de France, il énonçait l'exigence suivante: une science sociale, c'est cela le travail de réflexivité, c'est une science sociale se prenant elle-même pour objet, se servant de ses propres armes pour se comprendre et se contrôler. À cette nécessaire réflexivité, l'analyse de la transmission entendue comme étude de l'historicité des disciplines peut, à mon sens, contribuer. Voilà, je vous remercie.
Bien, alors après le sujet en déshérence et le sujet chercheur aux parents princiers, je vais passer la parole à Dominique qui va nous entraîner vers la question des filiations symboliques. Ça me semble bienvenu.
Merci, je voudrais d'abord remercier Laurence pour sa présentation de tout à l'heure et puis dire à quel point je suis contente d'être ici parmi vous. Donc, je voulais réfléchir en ouvrant plutôt des pistes, des prospectives, et avec une ambition très, très réduite hein, d'ailleurs. Je voulais vous proposer de réfléchir sur la filiation et la reproduction.
Merci. Ça va mieux, ça ? Merci. Ouais, ça va pas. D'accord. Donc, comment dire Mon rapport à la psychanalyse est indirect, je vais m'en expliquer un peu. Je n'y fais pas forcément référence explicitement, dans la mesure où c'est plutôt quelque chose qui me guide dans la mise en ordre du disparate. Je m'explique. L'approche psychanalytique des problèmes, je crois que ça peut développer une certaine forme d'attention qui permet en particulier de s'orienter dans les faits et dans les lectures, même si ces éléments n'ont pas un rapport direct avec, par exemple, la pédagogie ou avec des sujets qui nous préoccupent au premier plan. Et donc, c'est un petit peu ça que je voudrais vous présenter. C'est une sorte de chemin, de tentative pour dessiner les contours d'un problème qui me semble convoquer les efforts de l'approche psychanalytique, mais que moi, je ne traite pas tout de suite directement sous cet angle. Alors, j'ai pratiqué des observations récentes qui sont tout à fait partagées, je crois, c'est l'écoute de la radio et des médias pendant l'épisode des discussions parlementaires sur le mariage homosexuel. Alors, cette période, à un moment donné, m'a fait cristalliser une idée, parce que si j'écoutais la radio, ce n'était pas pour ça. Les affaires de discussion parlementaire, je les lisais dans les journaux et je n'avais donc pas forcément besoin d'écouter en plus à la radio la répétition des mêmes choses à tous les bulletins. J'écoutais la radio pour me tenir au courant des affaires de l'enseignement, tout simplement, hein, des réformes de l'université, etc. Alors, au bout du compte, j'ai pensé qu'il y avait une sorte de captation de l'attention par cette répétition des mêmes choses et que ces bulletins répétés avec une sorte d'incantation, d'appel à une vaste réforme sociale en faveur de nouvelles formes de mariage, c'est quelque chose qui devait peut-être être un peu pris au second degré. Et ce qui m'a frappé surtout, c'est l'insistance sur la biologisation de la relation de filiation à travers ces discours, dans la mesure où très vite on a glissé du problème du mariage initial au problème de la reproduction de reproduction assistée et médicalement, avec tous les problèmes liés à cela, reproduction biologique pour des couples stériles, aide à la filiation pour des couples homosexuels évidemment, mais aussi aide à la filiation éventuellement pour des gens célibataires. Donc ce problème se connectait exactement à l'autre par le biais des nouvelles formes de liens familiaux, et qui semblait là exploser dans une espèce d'effervescence d'imagination, de propositions multiples. avec effectivement une très grande rhétorique de l'innovation, de la liberté, une exaltation du pouvoir de tout faire et de réaliser tous les désirs. Et cette répétition infinie m'a évoqué la notion freudienne de rumination qu'il mobilise pour parler de la sexualité infantile, quand il dit que les enfants cherchent à expliquer d'où ils viennent et qu'ils ont à cette occasion une rumination fort plaisante parfois qui concerne la sexualité des parents. Alors, il me semblait qu'il y avait là quelque chose effectivement de l'ordre d'un certain plaisir, d'une certaine complaisance, le terme est peut-être trop faible justement, dans cet imaginaire incandescent développé à propos de la procréation assistée. Alors ça m'a été d'autant plus sensible que, bien sûr, dans La Passion de l'enfant, Laurence Gavarini a beaucoup mis en avant ce problème de la biologisation de la filiation. Il s'agissait plutôt à l'époque de parler des nouvelles formes de parentalité, enfin du problème de la parentalité. Mais cette intuition-là, cette idée que dans la société moderne, enfin contemporaine, la relation de filiation est pensée d'abord sous l'angle biologique, cette intuition-là se trouve, je trouve, vérifiée extrêmement nettement actuellement. Et j'ai pensé qu'on pouvait aussi rappeler l'expression utilisée par Marcel Mauss pour décrire cette situation. Il parle de technique du corps. Et lui, il pense plutôt à des gestes, à des savoir-faire, à des habitudes culturelles relatives au corps. Mais peut-être devons-nous, en nous décentrant, observer dans notre propre civilisation de nouvelles techniques du corps qui consistent en particulier à le médicaliser. Alors inversement, l'imagination qui se déploie donc avec une très grande richesse dans le domaine de la procréation biologique me semble pas du tout au même niveau quand il s'agit de penser des relations avec des enfants non pas virtuels et à venir, mais des enfants réels et qui peuvent éventuellement poser problème, comme ceux qui sont adoptés ou ceux qui sont dans des situations de placement. Alors, je ne prétends pas justement pouvoir penser correctement de telles choses. C'est pour ça que je m'appuierai plutôt sur des éléments que j'ai rencontrés récemment, par hasard d'ailleurs, dans la culture. D'abord, un film qui malheureusement ne me paraît pas visible en France, hein, c'est un film québécois de Nathalie Saint-Pierre qui s'appelle Cathy Mini. Alors, si jamais il a l'occasion de sortir ici, je pense qu'il faut absolument aller le voir. Parce que ce film, qui est un documentaire très, très bien réalisé, mais qui est aussi un film fictionnel, parce que dans ce genre de sujet, c'est pas certain que le documentaire littéral soit la meilleure solution. Donc, ce film montre des enfants placés et essaye de dégager un certain nombre de choses, donc des faits qui sont présentés. Et ce qui se dégage en particulier, c'est l'idée qu'on est prisonnier pour traiter les enfants placés d'une norme familiale qui est extrêmement pesante. Et c'est pourquoi je dis que l'imagination qui est au pouvoir dans l'affaire de la procréation assistée ne semble pas au pouvoir là, justement, dans le traitement des enfants placés. Et le film dénonce, par exemple, la tentative forcenée, on pourrait dire, de recréer une famille avec un père, une mère, un chien, une balançoire, un pavillon pourvu d'un jardin, une télévision, etc. et puis une commode qui est individuelle. Hein. Il y a toutes sortes de détails comme ça qui sont extrêmement bien montrés, de façon que finalement, on fasse oublier à tout le monde que ces enfants ont une famille problématique et qu'eux-mêmes connaissent un itinéraire qui n'est pas facile. Et le film montre à la fin une cérémonie pathétique où une famille est récompensée parce qu'elle a accueilli 100 enfants. Et donc le chiffre est effectivement inquiétant en lui-même et contredit la tentative de recréer un foyer normal, épanouissant, puisque évidemment toutes les techniques de l'éveil sont mobilisées hein, pour que ce foyer puisse développer les facultés et l'enfant et aussi son affectivité. Donc là, on a affaire à une présentation, disons, un peu de l'ordre de l'esthétique, mais qui justement permet d'insister sur des détails qui sont souvent restés invisibles. Et ce film m'a rappelé un article que je cite souvent parce qu'il m'avait beaucoup marqué, de Dominique Villepert, qui est paru dans la lettre du Grappe en 2005, c'était de bonnes années, et l'article qui s'appelait « Bonne mère au foyer » montrait la permanence, on ne s'était pas sur le mode de l'accusation, hein, bien sûr, la permanence de très forts stéréotypes chez des travailleurs sociaux qui, avec les meilleures intentions du monde, essayent de maintenir droite la trajectoire des individus dont ils ont la charge. Et l'article relatait la manière dont on avait déploré dans une crèche, comment on avait déploré le fait que la mère d'un enfant ne s'en occupe pas assez, alors que de toute évidence, le problème était plutôt dans la relation avec le père et ne résidait pas dans les difficultés quotidiennes connues, par exemple à cause du travail de la mère qui la retenait trop longtemps. Alors, donc, la dénonciation de ces stéréotypes par l'article me menait à dire, il n'y a peut-être pas que des normes comme ça qui permettent de bien encadrer les enfants, il faut peut-être voir plus loin et justement avoir une approche plus fine, plus observatrice, et c'est là où l'approche clinique, psychanalytique peut évidemment avoir toute son importance, une approche beaucoup plus réservée hein, dans un premier temps, beaucoup plus attentive que interventionniste, qui permet de dégager des sujets eux-mêmes, peut-être des solutions, au lieu de vouloir leur imposer des normes. Donc, ça m'amène à proposer, justement, pour aller vite, je me référerai peut-être à Michel Foucault, l'idée qu'il y a dans les rapports entre générations aujourd'hui et dans l'idée même de reproduction, un régime de vérité hein, qui s'est mis en place. C'est une notion que Foucault utilisait dans ses derniers ouvrages. C'est-à-dire qu'il y a peut-être à mettre à jour des normes implicites, des représentations, des valeurs, et puis aussi des éléments de quelque chose qui se présente comme une vérité, et qui sont des choses tellement lourdes que justement on n'arrive pas à les repérer. Alors il me semble que d'une part, on a affaire à un désir très auto-centré des adultes dans leur rapport à la filiation et à la reproduction. Quelque chose que, je répète pas ce que j'ai dit tout à l'heure, mais enfin un désir qui irait vers l'accomplissement de soi, hein, ça nous ramène à cette question de l'individu contemporain. L'accomplissement de soi qui impliquerait un prolongement, et je ne sais pas quel mot il faut employer, peut-être prolongement de la vie, mais quoi d'autre ? C'est-à-dire, est-ce que ce souhait, ce désir de durer, il mène aussi, comme ça a été le cas peut-être plus dans le passé, à vouloir transmettre quelque chose ? J'aurais envie de dire n'importe quoi, ça peut être une maison par exemple, une entreprise, ou alors l'amour du savoir, ou alors, je ne sais pas, un patrimoine musical ou quelque chose d'autre. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, parler de ça est extrêmement difficile parce qu'il y a quelque chose qui fait obstacle devant. C'est que le désir implicite qui s'affiche, c'est celui simplement de la reproduction. Et peut-être cette affaire de normes est en lien avec ce désir autocentré, puisque ces normes, qui sont extrêmement pesantes, elles aussi, mènent à quelque chose qui dure, qui se fige, qui ne bouge pas. Et donc, l'enfant là-dedans, les nouvelles générations, les jeunes, ne risquent-ils pas d'être accueillis, même s'ils ne sont pas placés, même si ils sont souhaités, même s'ils ont une famille, etc., ne risquent-ils pas d'être accueillis dans une sorte de carcan? Alors, j'ai trouvé un livre, c'est pour ça que je parlais de chemin disparate tout à l'heure, qui ne fait pas partie de vos références habituelles, parce que c'est un livre de théologie, donc je pense pas. Et c'est le père Jacques Delongeau, qui a écrit un livre sur le clonage humain, hein, qui vient de paraître, et qui me semble très intéressant dans la mesure où, avec des instruments de pensée théologique, hein, il dénonce la tyrannie de l'un, c'est-à-dire justement une attitude vis-à-vis des générations futures et des jeunes, qui consiste à vouloir les rendre le plus identiques possible aux parents d'aujourd'hui, sans imaginer ou souhaiter quelque chose d'autre pour eux dans l'avenir. Alors, ce qu'il appelle tyrannie de l'un, pour lui, est tempéré par l'idée du Christ. C'est pour ça que, bon, je ne vous demande pas d'adhérer à cette argumentation, mais je trouve que néanmoins, il y a là une provocation à la réflexion qui est intéressante. Puisque le Christ, c'est une personne divine, c'est un aspect de la personne divine qui est pluriel. Donc il y a là quelque chose qui s'oppose à cette tyrannie de l'un, qui existe en fait pratiquement chez les animaux, puisqu'on les clone couramment, plus couramment que je ne le croyais avant de regarder ce livre, et qui ça n'existe pas pour l'homme, peut-être heureusement, mais la question morale n'en a pas moins un sens. Et si ça existait, que faudrait-il en penser? Donc, ce qu'il faudrait en penser pour l'auteur, c'est que cette réalisation d'un clonage humain ne ferait qu'accomplir ce qui se passe en fait déjà dans le domaine moral. Alors donc, notre époque contemporaine, par rapport à la filiation et à la reproduction, semble tout simplement oublier la filiation symbolique. Et là, je ne prétends pas apporter quelque chose de bien original en disant ça. Cette filiation symbolique, elle est la racine de la créativité des cultures dans les systèmes de parenté. Déjà, hein, pour commencer, puisque on sait par l'anthropologie à quel point les systèmes de parenté ont pu être variés, paraître arbitraires aux cultures qui ne partagent pas ces systèmes, etc. Mais au-delà de cette question de la parenté, la filiation symbolique, c'est aussi ce produit. Enfin, elle existe quand un individu, pour des raisons diverses, se réclame, se construit en relation avec d'autres personnes que celles qui lui ont donné le jour. Et néanmoins, il est convenable de parler de filiation parce que il s'agit souvent de relations exclusives et très puissantes. Alors bien sûr, celui qui en a parlé peut-être le mieux, bien que d'une manière mythologique, c'est Platon, dans Le Banquet, qui décrit la relation qu'on appelait en général de maître à disciple, c'est-à-dire l'élection d'un maître par un disciple. On oublie souvent d'ailleurs cet aspect-là, et l'élection d'un disciple par un maître. Et le fait que cette relation-là soit présentée par Platon comme quelque chose de complètement élitiste et qui a un sens dans les écoles philosophiques de l'Antiquité ne doit pas forcément dissimuler qu'il il met l'accent sur une relation qui est intemporelle et qui dépasse de beaucoup ce contexte. Alors, il me semble qu'aujourd'hui, c'est un peu un défi qui est lancé à l'éducation en général et peut-être à l'école de se repositionner par rapport à cette relation-là. Je sais que l'appeler maître à disciple, c'est un peu restrictif. Il faudrait peut-être trouver un autre mot. Filiation symbolique, pourquoi pas. Enfin, quelque chose, en tout cas, qui permettent d'exprimer que les individus, les sujets, ne se construisent pas par la filiation biologique. Et que même si c'est une chose importante et incontournable, que c'est quelque chose qui doit évidemment être le plus possible mis en ordre par la loi, et si possible de façon claire, la filiation biologique ne résoudra jamais la question de l'identité. Et la question du développement de ces individus. Et il est tout à fait essentiel, probablement, que dans le développement, il y ait cet élément d'altérité qui permette de sortir, de s'arracher, justement, de ce que l'on est pour devenir autre. Et cette dimension de l'éducation me paraît singulièrement minorée dans le système scolaire actuel. Alors, on pourrait multiplier les exemples. Disons que les textes actuels, les politiques actuelles vont beaucoup dans le sens de la professionnalisation des études. On le sait bien au niveau du supérieur. Il y a une chose qui évolue vite et peut-être pas toujours dans le bon sens, à mon avis, c'est la relation avec les doctorants. Il me semble qu'on a tout un faisceau d'indices qui permettent de penser que cette relation élective, qui est pour une part évidemment due au hasard, hein, sans doute, qu'on ne peut pas avoir la prétention de la contrôler totalement, cette part de choix dans les références à l'antériorité d'un sujet et inversement, cet échange transgénérationnel que Platon a pensé dans le banquet, bon, c'est quelque chose qui est un véritable refoulé de l'éducation scolaire et des études aujourd'hui, même si elles sont universitaires, de même que c'est totalement refoulé dans la société, dans son entier. Et je dirais que même au niveau, par exemple, du travail des animateurs, il y aurait à réfléchir dans ce sens. Voilà, donc c'est simplement ce que je voulais souligner. Et pour conclure, je me référerai peut-être à une notion que je trouve intéressante chez Bernard Stiegler, qui est la notion de soin. Il dit « Prendre soin de la jeunesse et des générations », c'est le titre d'un de ses ouvrages. Je trouve que cette idée de soin est très importante si on la prend dans son extension maximale, hein, comme il le fait lui, c'est-à-dire à prendre comme un certain type d'attention envers les jeunes générations, avant de dire qu'ils ne s'intéressent pas au passé ou qu'ils ne sont plus du tout dans la durée, qu'ils ne se réfèrent plus à l'autorité ou des choses comme ça. Il faudrait peut-être un petit peu réfléchir de quoi ils partent, hein, de quelles propositions ils partent pour se construire et essayer de saisir en eux ce qui s'oppose à ce mouvement, je crois, de destruction de l'identité. Voilà, donc je m'arrête là.
Merci Dominique. Donc je me disais que finalement le clone, après les parents princiers rêvés par l'historien au roman familial de Névrosé, peut-être là, nous allons revenir d'ailleurs un peu à, ce, à cette histoire mythique, l'histoire héritée, l'histoire transmise, parce que Caroline nous propose de commencer par « Il était une fois ». Donc, je laisse la parole à Caroline Leroy.
Merci. Non, c'était pas pour le « Il était une fois » que je t'avais passé le papier, c'était parce que j'avais changé mon titre et que je craignais que tu dises l'ancien titre. Voilà, alors, comme l'écrivait Olivier Nicole, l'heure de la transmission est toujours celle d'un héritage, lequel est structuré autour d'une matière mémorielle et fantasmatique qui convoque chacun à l'inéluctabilité de la mort, aux effrois qui nous font la dénier et aux souvenirs d'un disparu. C'est à partir de cette phrase que je me suis questionnée sur de la psychanalyse en sciences de l'éducation, rupture et continuité dans la transmission, quel héritage ? Alors, du côté de la matière mémorielle, enfin, mon questionnement dépasse sans doute, un peu comme le disait Dominique tout à l'heure, les pistes de réflexion que j'aimerais partager avec vous. En tout cas, celles-ci sont largement en deçà de celles-là. Du côté de la matière mémorielle, on peut se référer en sciences de l'éducation au texte que l'on a déjà cité à plusieurs reprises ce matin. Peut-être que je vais passer du coup là-dessus. Hein. Je fais référence aux publications de Filliou, Céphali, Moll, et bien sûr aux notes de synthèse, aux dossiers dédiés à la clinique d'orientation psychanalytique, dans la revue française de pédagogie, Claudine Blanchard-Laville, Bernard Pechberti, Françoise Atchuel, Philippe Chesse-Courte, etc. Alors, j'entreprendrai pas ni d'en faire une synthèse, parce que ce n'est pas mon propos directement. Et je voudrais moi seulement proposer de tirer un fil dans la pelote de ces productions, un fil particulier qui n'est sûrement pas dû au hasard. Si l'on parcourt ces textes, dans un premier temps, je dirais que si l'on parcourt ces textes, on repère deux voies de filiation de mon point de vue, enfin de grandes voies. Hein. L'une qui s'agence autour du terme clinique, je passe, et l'autre qui est en effet ramifiée du côté des liens de la psychanalyse et l'éducation, et notamment de ces fameux pionniers qui ont inauguré ce que l'on a nommé à l'époque la pédagogie psychanalytique, donc notamment Pfister, Zelixer, Eichhorn, leurs liens avec Freud et leurs disciples respectifs, comme en parlait tout à l'heure Antoine Savoie. Il ressort aussi de ce chemin qu'il me semble drôlement incertain. On sait que l'on partage, et parfois même on se dispute le qualificatif clinique avec d'autres démarches qui s'en réfèrent sans pour autant le considérer sous l'angle psychanalytique, ou encore on lutte, si je peux me permettre, du fait de notre hétérodoxie vis-à-vis des critères de scientificité classique. D'autre part, on interroge les illusions, les désenchantements à l'époque de cette pédagogie psychanalytique, voire même on remet en cause son existence, notamment chez ceux qui y reconnaissent plutôt une dénaturation de la psychanalyse. Je ne vais pas m'étendre non plus là-dessus. Plus récemment, la thèse de philosophie de Daniel Milhocap sur cette pédagogie psychanalytique rencontre un débat entre psychanalyse et éducation présent depuis l'origine, depuis presque l'origine de la psychanalyse autour de Freud et des sentiments qui le liaient aux pionniers de cette pédagogie, puis dans une mouvance qui contamina l'univers psychanalytique, d'après l'auteur. Étudiant leur correspondance, l'auteur fit l'hypothèse d'une influence réciproque entre pédagogie et psychanalytique. Influence réciproque qu'on n'a pas vraiment, me semble-t-il, l'habitude de développer. Au point d'ailleurs, enfin, c'est-à-dire qu'on parle souvent de la transposition, de l'exportation, de l'éclairage, etc. Les mots de l'application, les mots ont changé et ces changements ont sans doute un sens de la psychanalyse vers l'éducation. Je ne pense pas du moins de l'influence de la pédagogie, en tout cas des travaux déceptionnés vers la psychanalyse. Au point d'ailleurs que l'auteur écrit que les pédagogies d'aujourd'hui se que les pédagogues d'aujourd'hui se retrouvent devant une psychanalyse à la constitution de laquelle ils ont contribué sans en conserver le souvenir. À travers ce tableau, faiblement brossé, il serait question d'une certaine idée de continuité, depuis presque le début de la psychanalyse, tout autant que celui des sciences de l'éducation. La question ne serait pas tant le désenchantement, le caractère illusoire ou pas de la pédagogie psychanalytique, c'est-à-dire cette pédagogie au départ qui était avisée thérapeutique. Donc ça ne serait pas tant cette question-là en tant que telle, mais le mouvement de pensée qui s'est un temps accompagné de cette forme-là. On y trouve aussi une certaine idée, servant des motifs fort différents, d'un souvenir non convocable. Malgré cette continuité, la clinique s'est retrouvée en effet très souvent oubliée dans les manuels de sciences et d'éducation, de même qu'il n'est pas fait, comme il a déjà été dit, mention très souvent de pédagogie psychanalytique dans l'histoire contemporaine de l'éducation, exception faite des textes évoqués au début. Qu'en est-il donc du côté de ces oublis qui font rupture dans cette continuité ? Plusieurs décennies de production du côté de l'éducation et du côté de la psychanalyse seraient-elles à ce niveau-là sans effet de transmission ? Évidemment, et fort heureusement, il y a toujours des restes dans toute tentative de retracer les origines des idées, objets, démarches, dans ce champ comme dans d'autres. Unité et rupture ne composent-elles pas ensemble la perspective historique elle-même ? L'oubli n'est-il pas aussi condition de mémoire ? Les disciplines seraient asphyxiées s'il leur fallait assumer tout leur passé. Comme le rappelle Pierre-Jean Simon, c'est le présent qui, par ses interrogations, fait vivre le passé et qui est, de la sorte, régulièrement reconsidéré, réactualisé. Pour ma part, le présent du thème de notre table ronde n'a pas manqué de rencontrer des thématiques qui me sont chères depuis plusieurs années autour des travaux de Nicolas Abraham et de Maria Torok. Et je voudrais souligner deux autres absences, étranges pour moi, j'ai dit autres puisque Antoine Savoie a parlé déjà de quelques-unes, étranges pour moi, celle de la psychanalyste Maria Torok et de la pédagogue Germaine Tortel, leur collaboration au milieu des années 50 dans les écoles élémentaires de la direction de l'enseignement de la Seine, cette courte expérience sans doute durant laquelle psychanalyste et éducation se partageaient la même visée générale, celle de transmettre la liberté de se donner un sens toujours nouveau, comme le formulera Nicolas Abraham. Je dis étrange à plusieurs titres, parce que Germaine Tortel n'a pas seulement été institutrice, elle fut inspectrice départementale, puis chargée de recherche à l'INRP, et elle fit entrer le psychanalyste dans ses écoles, Thoreau, Diakhtine, Le Bovici et d'autres. Étrange aussi parce qu'au nom de Maria Torok et de son compagnon Nicolas Abraham, est précisément associé la question de la transmission intergénérationnelle ou transgénérationnelle, et plus particulièrement celle de transmission secrète, les fantômes, qui se sont enquistés, incorporés, tels des corps étrangers, dans les cryptes de la psyché. Si à présent la pathologie de secret de famille, leur influence transgénérationnelle font partie des préoccupations d'usage, l'accueil majoritairement défavorable à l'époque pour les hypothèses de ces deux auteurs et leurs difficultés de publication pourrait faire songer à des sortes de pensées fantômes, si j'ose l'expression, qui aujourd'hui encore font que beaucoup d'auteurs, écrit Claude Nachin, ajoutent ces notions à celles qu'ils connaissent déjà, sans forcément percevoir l'édifice conceptuel qui permet de les penser et qui ne peut pas s'additionner sans difficulté à la psychanalyse classique. Une préoccupation proche d'ailleurs, me semble-t-il, de celle que nous connaissons dans notre champ en sciences de l'éducation, c'est-à-dire dans la clinique en sciences de l'éducation, avec ses effets de transposition des éclairages psychanalytiques qui l'accueillent. Avec Torok et Tortel, l'oubli semble donc aussi tout autant actif dans l'éducation que dans la psychanalyse, comme si nous héritions aussi des silences des disciplines qui nous inspirent. Maria Torok, élève et amie de Sándor Ferenczi. Sándor Ferenczi, On a parlé, je ne sais plus quand d'ailleurs, ce matin, je m'y étais noté, de ce texte de 1908 sur pédagogie, sur psychanalyse et pédagogie, qui est d'ailleurs son premier texte psychanalytique. Il fut le plus proche disciple de Freud, lit-on couramment, jusqu'à leur fameuse rupture et les désaccords au plan théorique et clinique. Mais la formule ne dit rien, bien sûr, de cette communauté intime de vie, de sentiments et d'intérêts, soulignée par Freud en 1933 à propos de leur amitié et dont témoignent les 1236 lettres de leur correspondance. Dans un récent ouvrage, au titre évocateur, Impardonnable Ferenczi, malaise dans la transmission, impardonnable, on connaît aussi les passages à l'acte de Ferenczi, Yves Lugrin propose de lire, dans cette correspondance, la psychanalyse en gestation et essaie de mettre en avant l'impensable de cette déchirure dans le lien de compagnonnage tissé un quart de siècle durant entre ces deux hommes, déchirure dont l'écho retentit bien après l'année de leur rupture dans le monde psychanalytique. Mais je ne vais pas trop m'étendre. Un impensable qu'ils situent dans leur transfert réciproque et au trauma qu'ils auraient réactualisé. Ainsi donc. Freud, Fils, Ferenczi, Fils, Freud, Sister, Zuliger, Freud et Schoen, Anna Freud aussi, Ferenczi, Torok, etc. J'arrête là la liste. Rassurez-vous, je n'essaye pas de dessiner un arbre généalogique. Mon intention est seulement d'attirer l'attention sur ce faisceau de liens et les transferts hors cadre, latéraux, atemporels, qu'ils pourraient abriter. Comme un insaisissable dans l'entre-deux de la psychanalyse et de l'éducation, pour reprendre l'expression de Mireille Sifali à propos de l'entre-deux théorie pratique dans la démarche clinique. Des reliquats transférentiels, comme les appelle Lugrin, sur la base desquels il pourrait être possible que certains oublis aient pris forme. Des fantômes qui continuent finalement de rappeler le malaise inhérent à tout désir d'une transmission qui ne serait pas seulement enseignement et formation, poursuit l'auteur, en l'occurrence, la part aliénante du transfert sur le savoir de l'autre entre Freud et Ferenczi. Ce que Lugrin propose d'entendre comme une inaugurale réaction didactique négative. Et si Ferenczi ne cessera plus dans ses lettres d'interpeller Freud à ce propos, c'est, en tout cas selon certains auteurs, dans d'autres lettres, à d'autres personnes, Jung d'ailleurs, Gisela Palos aussi, et donc dans d'autres transferts latéraux, me semble-t-il, que Freud apporte des éléments plus précis de réponse pouvant éclairer ce qui, au plan fantasmatique, transforme les liens passionnels en déchirure. Lugrin y décèle le spectre, dit-il, d'une autre rupture 30 ans auparavant, entre celle entre Freud et Fils, et fait de ces énigmes le malaise de la transmission qui sous-titre son ouvrage, notamment lorsque les sujets sont dépassés par une relation didactique qui s'instaure sur les restes mal introjectés, pourrait-on dire, d'une autre relation qui les précède. Si l'on considère que l'optique clinique, comme le rappelle Claudine Blanchard-Laville, est déjà d'être de toute façon une question de transmission plutôt que d'enseignement ou d'éducation au sens strict, c'est-à-dire de transmission d'une posture passant par une reprise élaborative de l'expérience singulière, et si l'on considère aussi que la question des mouvements transférentiels fait aujourd'hui ligne de partage entre cliniques d'orientation psychanalytique en sciences de l'éducation et autres courants, donc est suffisamment importante pour cela, comment ne pas se demander ce qui, depuis ces reliquats transférentiels, aurait pu circuler jusqu'à nous. Dans la question des rapports entre psychanalyse et pédagogie, dans les mouvements ambivalents de Freud, entre accueil enthousiaste des travaux des pionniers et mise à distance, dans les oublis que j'évoquais précédemment, doit-on, c'est une vraie question pour moi, entendre le spectre de Ferenczi et derrière lui celui de Fies. Rappelons également que Mélanie Klein et Michael Balin, deux figures qui me semblent aujourd'hui importantes dans la clinique en sciences de l'éducation en ce qui concerne précisément la question de la transmission, pour le concept d'identification projective pour la première et l'analyse clinique des pratiques pour le second, ont été analysées et élèves de Ferenczi. Alors, si l'on devait se mettre sur la piste du mythe fondateur devrait-on aller voir nous aussi de ce côté-là, du côté des fantômes qui hantent la psychanalyse, comme les appellent Sylvain et Réfaber, Ferenczi et Fliess, tels des vécus fossiles vainement déliés du lien de transmission lorsqu'il met pédagogues et chercheurs en sciences de l'éducation face à leur propre transfert dans la rencontre sur la scène éducative de l'infantile oedipien freudien aussi bien que de l'enfant ferenczien et de la réalité de son trauma. Quel héritage donc ? Outre les objets et les démarches, le souvenir de disparus dont je parlais en introduisant mon propos, je crois que nous héritons aussi de ces oublis, de souvenirs disparus. Et peut-être plus encore, Freud faisait le vœu que les adeptes de la psychanalyse se rencontrent dans un but de commerce amical et de soutien. La formule me paraît aujourd'hui minimaliste par rapport à ce que ces rassemblements produisent au plan transférentiel et à leur manière de tisser la toile de fond des mouvements de pensée qui se sont appliqués, exportés, transposés de la psychanalyse vers le champ de l'éducation, aussi bien peut-être, si l'on suit l'autre thèse, que du champ de l'éducation vers la psychanalyse, comme un fond de mémoire. Je crois qu'on a cité pas mal Olanier aujourd'hui, et j'irai donc du coup dans ce même sens. Les malentendus entre Freud et Ferenczi se sont pris dans ce que Lugrin appelle la confusion du discours groupal, où il s'y est construit une théorie digne des théories sexuelles de l'enfant, celle de la folie finale de Ferenczi. Une légende, rajoute-t-il, qui s'est colportée à voix basse. Qu'est-ce que l'on tente de la sorte de faire disparaître, s'interroge l'auteur. Dans un autre travail que je conduis sur les réseaux, sur les configurations réticulaires des liens, proches de celles que je viens d'évoquer finalement, je proposais d'entendre dans les chuchotements de réseaux une alliance corrofoulante qui organise, potentialise la circulation d'affects indésirables. Et d'une certaine façon, en assigne les témoins privilégiés. Ce type de rassemblement me semble alors se prêter particulièrement bien au dépôt des mondes fantômes, l'expression est de Blegger, de sorte que l'on peut se demander si ces reliquats transférentiels ne pourraient pas former une sorte de crypte, au sens d'Abraham et Torok, dans les rapports entre psychanalyse et éducation, et produire des mythes qui leur servent de couvercle, c'est la définition que Torok donne aux mythes, par où elles disparaissent elles-mêmes. J'entendais tout à l'heure cette notion d'ombre portée qui a circulé depuis ce matin entre nous. Et est-ce que tous ces mots disent quelque chose de notre propre fantasme de transmission ? C'est la question qui m'a hantée depuis ce matin. En tout cas, ce mot d'ombre portée, quelle est cette ombre que l'on porte ? Les réseaux comme les groupes et les institutions, alors oui, je vais conclure peut-être sur une note un peu différente. Les réseaux comme les groupes et les institutions ont besoin d'un mythe qui les fonde. Je ne l'invente pas, KS en a largement parlé et bien d'autres d'ailleurs. Si les identifications qui relient les membres d'un groupe devenait toute consciente, il serait peut-être déjà sur la voie de sa dissolution. C'est une idée qui me venait à la lecture de l'ouvrage de Milo Kapp, qui en parle elle-même. D'ailleurs, nous ne discuterions pas tout à fait du même héritage, ni de la même mémoire, ni de la même transmission pendant ces deux journées. En tout cas, à chaque fois que quelque chose se colporte à voix basse, d'autres choses, et notamment certaines constructions théorico-cliniques, s'énoncent avec plus de conviction, plus de précision. Alors je terminerai mon intervention en revenant sur cette question soulevée tout à l'heure. Qu'est-ce que l'on tente de faire disparaître ? Et puis, pour y répondre, ne vous inquiétez pas, mais surtout pour y substituer une autre. Qu'est-ce que l'on tente de faire apparaître en faisant disparaître ? Quelque chose qui me semble avoir à faire directement avec la question de la transmission dans la recherche et que je formulerai en m'inspirant dans Dieu. La promesse d'une immortalité des pensées et du penser comme seul héritage à transmettre. Et peut-être comme modalité défensive face à l'effroi de l'inéluctabilité de la mort qui introduisait mon intervention avec le propos de Nicole. Merci.
va, Marc, si tu veux. Oui, il marche. Oui, merci de cette dialectisation autour de la disparition et de, du faire, du rendre apparent. Je pense que les, décidément, les archives nationales nous inspirent beaucoup au niveau métaphorique ce matin. Peut-être je vais vous donner la parole aux uns et aux autres pour faire circuler ce qui, pour vous, a pu résonner d'une intervention à l'autre. Et puis, s'il y a des questions, encore une fois, vous nous les transmettez par écrit. C'est ça ? Catherine, tu les... Il y a des gens qui circulent dans les travées pour récupérer vos questions. Est-ce que quelqu'un de la tribune veut réagir aux interventions précédentes ? Ils sont plongés dans leurs notes. J'allais dire dans leurs archives.
C'est juste une demande de précision. Quand tu as cité Gilbert Robin, psychiatre, c'est celui qui a écrit dans ton compte l'éducation nouvelle ou pas ?
Oui,
oui, c'est ça.
Oui.
Hein ? Donc il était contre. Si, si.
Parce que c'est énigmatique pour nous autres.
Non, mais depuis tout à l'heure, je cherche et je n'ai pas trouvé tout. Mais il y a longtemps, j'avais lu un livre qui s'appelait Pour ou contre l'éducation nouvelle. Donc, il est écrit par deux personnes qui s'opposent. Et j'ai oublié le nom de la personne qui est pour. Et depuis tout à l'heure, je cherche et il n'y a rien à faire. Mais Gilbert Robin, c'était l'autre, c'était contre.
C'est une disparition, ça.
Oui, oui, oui. Mais si c'est André Berge, voilà, ça y est, c'est, merci. Voilà, donc c'est un livre assez étrange qui est imprimé à l'envers. Il se lit dans les deux sens. Voilà,
le pour et le contre.
Le pour et le contre,
oui, oui. On commence par le pour.
Et on commence par ce qu'on veut, puisqu'ils sont vraiment complètement à l'envers. Et du coup, c'est intéressant parce que, alors j'ai plus la date en tête, mais enfin, ça préfigure de loin un certain nombre de discussions qui ont eu lieu beaucoup plus récemment et qui démarrent de rien, comme si on avait fait une table rase et qu'on ait tout oublié, alors qu'il y a beaucoup d'éléments très intéressants dans leur discussion, qui est quand même assez amical pour qu'ils aient publié les deux en même temps. Donc,
une réaction spontanée, je dirais à titre d'étrangère, un étonnement et un ravissement en tant qu'universitaire, de voir à quel point vous témoignez depuis le début du colloque ce matin d'une présence vivante de la réflexion psychanalytique dans l'interrogation sur la transmission pédagogique et sur l'histoire de la psychanalyse dans son intrication avec d'autres disciplines des sciences humaines. Alors, cette présence très forte, un véritable savoir très, très métabolisé, très, très subjectivé, dans les murs de l'université, est pour moi une surprise totale, parce qu'au Québec, c'est le néant. Et c'est en particulier le néant dans les départements de psychologie. Si on arrive à parler un petit peu de psychanalyse, c'est pratiquement de façon clandestine et marginale. Je suis un petit peu mieux lotie en sociologie parce que je ne sais pas pourquoi. Mes collègues ont trouvé que ça faisait fantaisiste. Bref, j'ai deux cours. C'est considérable par rapport à ce qui se passe de façon générale dans les universités québécoises où la présence de la psychanalyse a été complètement effacée, déniée, dévalorisée. Alors c'est une première réaction pour dire moralisme.
Non, moi j'avais juste envie de dire que je trouve qu'entre... Je me suis noté des mots comme ça. Entre le roman familial des névrosés, les filiations symboliques, les expériences traumatiques et les, comment dire, les choses que l'on met en avant et qui font écran, je trouve qu'il y a entre, malgré la différence des différentes communications, je trouve qu'il y a quelque chose qui circule bien autour de la transmission, enfin qui fait l'objet de cette table ronde. Et mais c'est vrai que j'avais déjà cette idée avant. Je trouverais important. J'ai envie de nous enjoindre à s'engager dans un travail peut-être qui revisiterait certains de ces oublis, ceux que évidemment soulevait Antoine, et puis ceux aussi moi que j'ai voulu exposer dans les rapports entre psychanalyse et éducation. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire.
Il y a une question à laquelle tu peux répondre. Oui, c'est une question qui va décentrer un petit peu le début de l'échange que nous avons eu entre nous rapidement à cette table ronde et qui va décentrer également, je dirais, par rapport au contenu des trois dernières communications. Elle m'est adressée et elle concerne les nouvelles formes de problématiques psychiques dont j'ai pu dire qu'elles étaient non seulement très présentes, mais prédominantes dans la clinique contemporaine et particulièrement présentes chez les jeunes adultes. Alors ce n'est en rien un scoop de ma part, c'est un constat très généralisé que les problématiques psychiques avec lesquelles nous sommes très souvent aux prises ne procède pas du modèle classique des psychonévroses de défense. Donc, elles ne sont pas organisées autour de processus de refoulement bien orchestrés et autour d'inscriptions mnésiques qui relèvent du modèle de la première topique freudienne, mais d'un tout autre mode de fonctionnement avec des mécanismes de défense autres et qui ne sont pas, on pourrait dire, intra-psychiques, mais plutôt, d'une certaine façon, extra-psychiques. Donc, par exemple, les actings, les passages à l'acte de toutes sortes. La question qui m'est adressée, c'est comment travaillez-vous et qu'est-ce que cela implique en termes techniques. Alors, il est évident que le travail actuel de réflexion clinique implique un travail de remaniement du cadre clinique. C'est rarement des personnes que nous allons recevoir selon le dispositif classique du divan, qui est même très souvent contre-indiqué ou longtemps contre-indiqué, mais plus dans des techniques, des cadres de face-à-face, voire de psychodrame psychanalytique, voire de psychanalyse de groupe, pour permettre un étayage d'une part du processus interne de la représentation psychique, mais avant même cet étayage du processus interne de la représentation psychique, un étayage du lien à l'autre, la possibilité pour les patients, dans un premier temps, de pouvoir investir un lien, se relier et tolérer les différents éléments de ce lien parvenir à tolérer quelque chose ou à inscrire en eux quelque chose qui serait de l'ordre de l'ambivalence, parce que ces problématiques-là ne fonctionnent pas du tout dans l'ordre de l'ambivalence, mais dans des réactions massives d'amour-passion ou haine, cette forme de clivage. Alors, c'est ce que je répondrai de façon préliminaire.
Oui, alors, donc une question qui m'est adressée, que j'ai du mal à lire. J'aimerais entendre davantage autour de ces reliquats transférentiels sur la part aliénante du transfert, sur la dialectique faire apparaître pour faire disparaître une part de l'héritage. Alors, vous avez du temps. Bon, sur les reliquats transférentiels et la part aliénante du transfert de la relation didactique qui s'était instaurée. Enfin, j'avais pris l'exemple justement de Freud et de Ferenczi. En fait, c'est surtout pour dire. Parce que je trouve qu'on peut le dire ailleurs, mais sans doute pas dans les mêmes tonalités, ni avec les mêmes contenus, pour dire que les liens de pensée, le mouvement de pensée, dont j'ai essayé de dire qu'on repère, hein, ceux qui ont produit dessus et qu'on a déjà cité, des continuités, même si il y a des ruptures. Donc ce mouvement de pensée-là, il ne s'élabore pas que dans la pensée progrédiente, comme dirait Botella, mais aussi dans la pensée régrédiente, c'est-à-dire dans le transfert, dans les transferts qui s'échangent parmi des personnes. Entre lesquelles s'élabore cette réflexion. Alors, en gros, les liens, finalement, à l'origine de la psychanalyse, et dont peut-être on pourrait se dire, qui concerne aussi le rapport, le lien direct avec la psychanalyse et l'éducation, puisque je faisais référence à cette élaboration d'un certain nombre de choses, avec les pionniers qu'on connaît bien, qu'on a bien identifiés, hein, de la fameuse pédagogie psychanalytique, mais c'est la même époque où prend naissance la relation avec, notamment, pas seulement, il y a beaucoup d'oubli hein, dans ma communication, Ferenczi. Alors, pourquoi c'est Ferenczi qui m'intéresse ? Il m'intéresse, je l'ai dit, parce que je m'intéresse surtout à Maria Torok et Nicolas Abraham, mais actuellement je m'intéresse à cette période pendant laquelle Maria Torok a travaillé avec cette pédagogue Germaine Tortel. Et quand je me suis adressée à nos collègues socio-historiens pour leur demander s'ils connaissaient Germaine Tortel, on m'a plutôt répondu que non. Hein. Ils sont dans la salle, puis il y en a un autour de la table. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai compris, et ça m'a fortement étonnée. Et donc, en tirant ce fil, je suis remontée, par des lectures, évidemment, qui sont celles de mes choix, encore une fois, je suis remontée à ces rapports passionnés, comme beaucoup d'auteurs les décrivent, à présent que nous avons les correspondances, entre ces pionniers également de la psychanalyse. Voilà. Et donc, dans les ruptures, je ne sais pas si je peux rentrer vraiment dans les détails, mais dans les ruptures, il y a des reliquats transférentiels, et ces reliquats transférentiels ne sont pas élaborés forcément, comme pour tout le monde, hein, au moment où ils se vivent. Il réactualise finalement, quand on lit la correspondance de Fies, de Ferenczi, peut-être aussi d'ailleurs celle de Fies, et aussi les réponses de Freud, en fait, finalement les réponses qu'il fait à d'autres aussi et qui sont éclairantes, donc réactualise un certain nombre de traumas, on va dire, et qui sont, hein, tous ces mots sont aussi les aspects théoriques sur lesquels portent les débats et les dissidences. Et voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, en même temps que l'on fait disparaître, enfin, que l'on fait, c'est pas une volonté consciente, hein, c'est plutôt de l'ordre du fantôme, de la crypte, au sens de Torok et Abraham. Donc, en même temps que l'on fait disparaître un certain nombre d'auteurs, eh bien, à chaque fois, comme ça a été le cas par exemple pour la psychanalyse et Freud, des convictions théoriques s'affirment mieux, se précisent. Et c'est sur celles-là que nous travaillons surtout, que nous retrouvons surtout transposées dans notre champ des sciences de l'éducation. C'est pour ça que je disais que finalement, en même temps, des idées, des théories donnent naissance à d'autres théories, et je citais Anzieu pour ça, qui finalement disait que le plus important, c'est que la pensée qui donne forme à la matière humaine continue de se transmettre vivante en d'autres vivants, en d'autres humains. Enfin bref, vous avez compris. En même temps, si c'est ce qui veut dire pour moi que ce qui apparaît à ce moment-là, je suis peut-être un peu longue, je finis, ce qui apparaît à ce moment-là, c'est donc cette idée, ce sont ces pensées qui s'affirment dans le temps et qui nous rend immortels, quoi, en gros, c'est un peu ça.
Bon, juste un petit commentaire. On pourrait croire que ces quatre discours, ou ces quatre propos plus exactement, auraient pu rester étrangers les uns aux autres, mais il me semble que quand même tous, je vais essayer d'en dire un mot, aller vers cette question que Dominique a soulevée mine de rien dans son propos autour de la filiation symbolique, et ce que tu viens de dire, et ce que Antoine a dit également, c'est bien, me semble-t-il, toute cette question de la dimension élective dans laquelle le sujet se prend pour s'inscrire dans une filiation et pas dans une autre. Et il s'agit bien là de filiation symbolique, au sens où Dominique l'a déplié comme étant cette filiation par laquelle finalement on devient autre, on s'arrache de ce que l'on est pour devenir autre. Et en écoutant Isabelle au début nous apporter les éléments de sa clinique à la clinique psychanalytique de Montréal, entre autres je crois, et assez fortement, ça m'évoquait la recherche que nous faisons actuellement sur les adolescents décrocheurs scolaires. Et précisément ces adolescents qui, bien qu'ils parlent toujours de s'arracher, ils s'arrachent, on s'arrache, je m'arrache, tu t'arraches, on se pose, précisément peut-être que leur question rejoignant, ou leur non-question, mais en tous les cas leur état, rejoignant ce que tu nous as amené, ce défilé de sujets en déshérence, peut-être que leur question ou non-question, ce serait bien celle-ci, celle de cette possibilité pour un sujet de devenir autre, c'est-à-dire de s'arracher au même, de s'arracher au fusionnel, au symbiotique, de s'arracher au magmatique, de s'arracher au clonage familial, à cette opération d'emprise qui est toujours la tentation éducative parentale. Vous savez, de toute façon, les parents, quoi qu'ils fassent, ils sont toujours faux. Mais ce fantasme de clonage peut-être est extrêmement présent à l'heure actuelle. Ce que, Dominique, tu as dit en parlant de reproduction, et j'espère qu'on a tous entendu qu'il ne s'agissait pas simplement de reproduction précisément biologique, mais bien de désir de reproduire du même, de faire du même, du semblable, sans laisser cette possibilité d'arrachement et de devenir autre à l'enfant. Donc je crois que tout ça a quand même bien circulé entre vous quatre, et je vous remercie. On va suspendre la matinée pour se rendre. Alors je vous donne quelques détails pratiques. Nous allons à la Coupole, maison des étudiants. C'est pas la Coupole à Paris, à Montparnasse. C'est la Coupole maison des étudiants qui se trouve sur le campus de l'Université Paris 8. Il faut donc sortir des archives, traverser la rue, qui est la rue Guynemer, et puis ensuite passer par le grand la grande entrée de Paris 8, et pratiquement, bah, écoutez, c'est tout droit, et vous suivez le fil, c'est plutôt vers la droite, mais de toute façon, vous suivrez...